Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour ce 187e podcast, une émission dédiée au bilan du mois de mai 2011 avec, comme d'habitude, eh bien, Raon, Julo, mais aussi Mimic et un invité exceptionnel. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Présentez-vous.
I am Iron Man.
Classe, bon mon dieu. Alors, on va laisser un certain suspense, en tout cas pour ceux qui n'ont pas l'image, parce que sinon, globalement, on a compris.
J'ai trop chaud.
Exactement. Oh mon dieu! Mais qui est...
Oh, c'est Tiger Suplex!
Quel suspense incroyable, quelle mise en scène phénoménale, digne des plus grands...
Plus personne ne mettra jamais ce casque maintenant qu'il a sué dedans comme un gros porc.
Ça va Tiger?
Impeccable.
On a besoin de toi, hein, parce que tu as, tout comme Mimic d'ailleurs, bravé les miles pour nous ramener de belles impressions. Ouais, exactement, donc vous êtes allé un petit peu à droite à gauche, Raon aussi. On vous parlera donc dans ce bilan du mois de mai 2011, à quelques heures maintenant du début de l'E3 2011, qui s'annonce absolument bouillant, et bien de nos premières impressions sur Modern Warfare 3, qui jouera la carte de la Troisième Guerre mondiale, sur Bioshock Infinite, que Raon a eu l'occasion de voir en exclusivité quasiment avant tout le monde et qui nous en a ramené de très belles impressions. On a pu jouer aussi en avant-première à FIFA 12, on a pu découvrir Starcraft 2 Heart of the Swarm, mais aussi Duke Nukem Inversion, Dead Island, Dark Souls, Transformers Shadow of the Damned, et puis on reviendra sur les tests et il y aura des polémiques, je vous l'annonce tout de suite, sur Elle est Noire, est-ce un énorme jeu ou y a-t-il aussi quand même des défauts, sur Brink, Outlank ou encore un petit jeu, Blocks That Matter, mais pour cela il faudrait que Mr. P réponde présent, et là il y a un petit doute parce qu'on ne sait pas où il est au moment où nous enregistrons ce podcast. Et puis on reviendra sur l'actualité avec, ça y est, des informations, des rumeurs, le PlayStation Vita, le PS Vita, serait-ce le vrai nom de la NGP? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans quelques jours, en tout cas on va pouvoir en parler un petit peu, les dernières rumeurs aussi sur le projet Café, la nouvelle console de Nintendo, l'arrivée des remasters PSP, vous savez ces jeux PSP qui arriveront sur PS3 en version HD, comme Metal Gear Solid, Peace Walker devrait être un jeu fer de lance de ce genre d'adaptation. Et puis voilà, on parlera aussi de l'arrivée de Assassin's Creed Revelations qui s'est révélé hein, en ce mois de mai, Julo n'en peut plus, de la baisse des abonnés qui commence un petit peu à décliner du côté de World of Warcraft. Bon, bon ça va, hein, il en reste encore 11,4 millions. Enfin voilà, pas mal d'informations juste avant l'E3. Mais comme d'hab, traditionnellement, on commence par les informations du site Gameblog, que s'est-il passé? Eh bien déjà, on est très heureux d'avoir pu vous accueillir avec la FNAC, justement pour un podcast événement que vous découvrirez la semaine prochaine. Ça s'est déroulé il y a quelques jours maintenant à la FNAC des Halles. C'était à Paris. Peut-être que ce genre d'événement se reproduira, et on l'espère aussi, en province. On le souhaite vraiment, mais ça a été un beau moment, puisque vous avez été plus d'une centaine à répondre présent. Ça
et
a beaucoup
nous,
plu.
Et nous, on a kiffé aussi.
Ah ouais, c'était
vraiment
cool.
J'ai trouvé ça hyper intéressant comme expérience.
Il y avait Tiger, il y avait Julo... Il y avait aussi Florent Gorge de Makebook et Alexis Blanchet, donc l'auteur des Pixels à Hollywood, bien sûr. Et c'était effectivement un beau moment que vous allez découvrir, pour ceux qui malheureusement n'avaient pu être là, la semaine prochaine dans un podcast forcément fort sympathique. Même si, on vous le dit tout de suite, il risque d'avoir quelques petits soucis au niveau du son.
Bon, on n'est pas ingénieur sonore qui veut.
Voilà, on essaie de résoudre un petit peu ces problèmes. On va voir ce qu'il en est. Autre information sur le site, on vous l'a annoncé, on va préciser les choses dans les jours, heures à venir. On a passé un petit partenariat sympathique avec nos amis de NetVibes, vous savez, qui agrègent les flux RSS, ce genre de choses, et qui ont aussi quelque chose qu'ils appellent les dashboards, qui permet de centraliser autour d'une même thématique, eh bien, un faisceau d'informations convergent. Et du coup, sur le dashboard E3 2011, eh bien, toutes les informations Gameblog seront relayées. Et nous vous permettons aussi, si vous le souhaitez bien sûr, en publiant des posts de blog dédiés à l'E3 dans vos blogs sur Gameblog, si vous rajoutez le hashtag, donc vous savez, le dièse Gameblog Reporter ou Reporter Gameblog, plus précisément, eh bien, vos informations vont être comme ça, envoyées aussi et visibles sur le dashboard E3 2011 de NetVibes. Voilà.
Une énorme exposition donc pour vos blogs.
Exactement, voilà. Ça vous permettra d'être lu à la fois sur Gameblog mais aussi ailleurs. Et bien évidemment, pour ceux qui imagineraient que je sais pas quoi, Gameblog va traiter l'E3 de manière ultra intensive, puisque Raon et Cédric
et toi
et moi, nous partons là dans quelques heures, puisqu'on décolle samedi pour la Cité des Anges. Il y a un bien bel E3 a priori, hein, avec beaucoup de choses qui sont imminentes. Autre information, vous le savez, il y avait le concert de Masashi Amoizu, donc le compositeur des musiques de Saga Frontier 2 par exemple, mais aussi plus dernièrement Final Fantasy 13, qui est donc était de passage à Paris pour une série de petits concerts vraiment très sympathiques. J'ai eu la chance d'y aller, ainsi que certains membres de la communauté Gameblog des Premium, puisqu'on vous faisait gagner quelques places.
Tout à fait, ça fait partie des concours. On avait très peu de places, donc on a favorisé nos membres Premium, évidemment. Donc voilà, ils ont pu être 6 à partir avec toi, assister à ce concert.
Exactement.
Qui était très bien.
Ah,
bien.
Très très beau concert avec de la musique traditionnelle aussi de ces Japonais du Nord de
les Ainu.
Voilà.
Et c'était musique vraiment Ainu.
Avec des instruments traditionnels. Enfin, c'était vraiment un très beau moment. Julo, puisque justement tu parles des premiums, vous le savez, on revient régulièrement sur la jauge au premium. et donc là, on est arrivé à 19%. Alors, ça n'a pas beaucoup bougé, puisque la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était à 19%. Ça s'explique par le fait qu'il y a eu de nombreux inscrits, et puis il y a eu des gens qui se sont désinscrits sur le mensuel, mais qui sont peut-être d'ailleurs passés à l'annuel ou au soutien.
Bien sûr, on voit pas exactement où se déversent les gens, etc., parce qu'il y a évidemment toujours de nouveaux abonnés, etc., mais quelques sortants également. Et donc, pour rappeler un peu le principe de cette jauge, c'est simplement qu'on essaye de faire un 100% et qu'on imagine un perfect qui serait un gameblog parfaitement rentable par rapport à ses recettes publicitaires. Voilà, en complément de ses recettes publicitaires, on se base sur ce chiffre et voilà, on en est maintenant à un peu plus de 19%. 19,5%.
Bon, il y a encore un petit peu de boulot. Voilà. Mais d'ailleurs, les premiums vont fêter leur premier anniversaire le 9 juin prochain, donc ce sera au cœur de l'E3. Ouais. Et on est déjà en train de réfléchir à des petites choses pour fêter ça. Alors pas forcément le 9 juin hein, puisqu'on sera un peu à l'E3,
ça va être chaud,
mais dans, au cœur de l'été, ou en tout cas à la rentrée. Voilà, alors on va passer, messieurs, à l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai 2011? Eh bien, tout d'abord, et c'est tombé il y a quelques jours maintenant, le PS Vita, le PlayStation Vita. Alors
quel nom étrange,
quel nom assez bizarre.
Temps, c'est très Sony, ouais. Ces noms là hein, avec Vaio,
Julo,
Cryo, non, c'est quoi le truc de
musique? Bravia,
les Bravia,
Vaio, Xperia.
Voilà, c'est ça. Xperia, etc. Oui, alors pourquoi pas? Ça paraît crédible en fait, mais j'aime pas trop.
Bah, d'autant qu'en fait, c'est une marque qui appartient à Sony. En fait, ouais. Il l'avait déposé il y a déjà quelques mois, années. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde bien, avant même de l'appeler NGP, lorsque la PSP s'appelait encore PSP2, il y avait déjà des traces d'un projet Vita chez Sony. Elle portait déjà ce nom, donc ça semblerait crédibiliser un petit peu plus la source. Bon, à suivre hein, mais
Il y a aussi des visuels. Bon, après ça peut toujours être du photoshopage hein, mais les visuels sont assez crédibles, on va dire. Une photo un peu,
encore une fuite Sony juste avant l'E3.
À suivre en tout cas.
Bientôt on va devenir paranoïaque parce qu'il n'y aura plus de fuite. Ouais. On va dire, mais merde, c'est bizarre, on ne sait rien avant, qu'est-ce qui se passe.
Il y a un truc qui. Pourquoi t'as un accent belge quand tu dis ça?
Je sais pas.
Parce qu'il est belge.
mais vous y croyez, vous, à ce PS Vita pour le nom officiel de la PSP2?
Oui.
Julo, t'es oui.
Oui, bah comme je disais, oui, effectivement, ça paraît crédible, un nom un peu.
Vita, bizarre. Genre c'est la vie en latin quand même, c'est
tout
un peu présomptueux.
Voilà, en italien.
C'est marrant, il y a plein de vannes avec la chanteuse R&B et la copine de Diams en ce moment, donc moi ça me plaît beaucoup. Un truc rigolo sur le net en ce moment.
Vraiment, PlayStation, c'est la vie.
Ça voudrait dire qu'on l'appellerait plutôt genre la Vita. T'as une Vita.
La Vita, t'as une Vita.
Tu me prêtes ta
Vita? Tu veux manger un bio, t'as une Vita.
Je sais pas. Mimi, c'est assez crédible en tous les cas, je suis pas très.
T'es pas emballé?
Non. Moi j'y crois.
Toi t'y crois, Mimi?
Moi j'y crois.
Pourquoi t'y crois? Juste pour l'envie d'avoir envie ou
parce qu'il y a des sources un peu partout.
Parle bien dans ton micro.
Excuse-moi. Parce qu'il y a des sources un peu partout, j'ai fait quelques vérifications, etc. Et je pense que oui, c'est ça.
Ah, tu as des vérités d'insider, des trucs machin et tout.
Effectivement, je fréquente des gens du milieu.
Des gens de R&B. Ben, en tout cas, on sera fixé le 6 juin, je crois que ce sera 2h du matin, heure française, lors de la conférence Sony, qui sera dans un nouveau lieu. Ce sera dans un stade, cette fois-ci, et non pas dans une grande enceinte. On espère que ce sera un petit peu moins mou que d'autres années. Bon, on va voir.
Surtout que ça a l'air d'être prévu pour être assez long quand même.
Exactement.
Vu qu'il y a 5 heures sur l'invitation, enfin bon, ça sera pas que de la conf, mais 5 heures d'événements.
Surtout que depuis quelques années, c'est chiant les conférences Sony, vraiment. C'est vrai. Là, 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 il balance tout le, toutes les infos possibles, imaginables.
Il y a 4 heures d'excuses quand même. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est ça, sur les 5 heures de truc. Ouais.
Eh ben écoutez, on verra bien sur l'avenir de ce PS Vita. En tout cas, quel que soit le nom, ça ne changera pas le fait que la NGP ou la PSP2 devra vraiment faire ses preuves pendant le salon et qu'on vous donnera bien toutes nos impressions. PSP2 ou PS Vita en main d'ici maintenant moins d'une semaine.
Une NGP Tiger. Qui a été revue un petit peu à la baisse, juste pour préciser. Oui. On a passé une news il n'y a pas longtemps qui est visiblement un petit peu moins de RAM, un petit peu moins de puissance. Les développeurs n'ont pas l'air de trop s'en plaindre. Hein. Visiblement, il y a encore de quoi faire avec cette machine, mais peut-être pour un prix plus abordable. On sait qu'il y aura deux versions pour cette
une
PS
version 3G
Vita.
Et une version Wi-Fi.
Voilà, donc on peut imaginer que la version 3G arrive en concurrence frontale au niveau du prix avec la 3DS.
Ouais.
Donc,
c'est
intéressant.
Je pense que c'est tout leur intérêt à Sony de manière d'arriver d'être ultra compétitif au niveau du prix avec une machine qui... Parce que même si effectivement la mémoire, semble-t-il, a été un petit peu baissée, elle reste quand même vraiment impressionnante.
Mais je pense pas que ce sera la version 3G qui sera en frontale avec la 3D, je pense que ce sera l'autre, moi. Je pense que ce sera la version normale qui sera au même prix. Ouais. La version 3G sera un peu plus chère, je pense.
C'est 3G.
Mimique.
J'ai entendu parler de 4G il n'y a pas très longtemps.
Oui, ça existe aux États-Unis.
Je suis donc surpris en fait de voir arriver la PlayStation Portable, la seconde avec la 3G. Quoi. Je suis vachement étonné en fait.
Mais la 3G, c'est mondial quoi.
Il
faut que ça soit partout.
Mais
aussi,
bon,
quoi.
La 4G ça va arriver aussi. Tu sais très bien que dans pas si longtemps que ça, on va tous s'en bouffer. Et c'est bien mieux. Donc,
Mais faudra attendre l'iPhone 5, je pense.
Et la tradition PlayStation, c'est d'être un peu en avance sur son temps aussi. Donc.
Ouais, mais à la fois la tradition aussi, ça a toujours été de vendre des trucs un peu trop chers. Hein. Dernièrement, ça leur a quand même causé un petit
tu
peu de soucis.
Tu dire qu'ils auraient compris
Peut-être, ce serait souhaitable pour eux en tout cas. Et quand on voit que justement, apparemment, sur le prochain iPhone, ça resterait en 3G. Sur l'iPad 2, c'est toujours en 3G. C'est une technologie qui pour l'instant ne touche que les États-Unis et surtout de manière. Il n'y a pas de device, d'appareil qui l'utilise vraiment. Donc,
Il y en a.
Ouais, non, mais très très peu. Ouais. Enfin, vraiment, c'est pour
Par contre, ça
défonce. Oui, d'accord. La chose positive, c'est qu'apparemment, selon Orange, en tout cas, les modèles 3G pourraient utiliser les mêmes réseaux que la 4G. Alors, ce serait pas la 4G full, mais en gros, débrider un petit peu le truc quand même. Donc, c'est pas non plus. C'est pas la fin du monde. À suivre, on ne sait pas encore. Ils peuvent rajouter des trucs au dernier moment, on ne sait pas. Allez, autre information concernant une autre machine, le projet Café. Vous savez forcément, la nouvelle console de salon de Nintendo. Alors, il y a eu pas mal de rumeurs qui sont tombées dernièrement. On parle d'un autre nom, la Nintendo Feel. Et pourquoi Feel ? Parce que a priori, il y aurait peut-être de l'aptique à l'intérieur de ces manettes.
Oh, le vilain mot.
Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les choses, Raon ?
C'est olfactif par exemple, c'est le sens de l'odorat, et haptique c'est le sens du toucher, donc ça serait elle serait en mesure de nous faire ressentir des choses par le toucher.
Les petits poils des chiens de Nintendo, la moustache de Mario.
Je sais pas, on peut imaginer plusieurs choses, mais c'est pas vérifié.
Mais c'est au point ces technologies. Enfin, moi j'ai découvert ce terme haptique avec la news des Mike. Mais c'est au point ces technologies déjà ou...
Il y a quelque chose qui est en train de se démocratiser. Au Japon, il y a Kyocera donc, qui va lancer un téléphone qui pour l'instant est un peu plus gros qu'un téléphone traditionnel, mais qui permet d'avoir 7 degrés de pression et qui permet vraiment de ressentir les touches, les widgets, etc. Mais vraiment de le ressentir, pas juste une petite vibration quand tu passes le doigt. Et du coup, ça peut être le début. Et apparemment, ils voudraient le démocratiser fortement et ils auraient annoncé qu'ils auraient eu déjà des premiers contrats de très grosses sociétés. Alors est-ce que par exemple Nintendo ferait partie de ces sociétés là on voit qu'a priori Nintendo est en train de changer quand même un petit peu de mentalité sur cette fameuse pensée latérale des technologies désuètes qui serait de prendre des technologies qui ont déjà fait leurs preuves à bas coût et de les utiliser. La 3DS globalement utilise une technologie de pointe avec cette 3D relief sans lunettes. Peut-être qu'ils vont être une fois de plus en avance.
Par rapport aux autres constructeurs, il reste quand même majoritairement sur cet aspect-là. C'est juste peut-être un truc qui pousse à chaque fois, genre la 3D sur la 3DS, etc. Mais le reste n'est pas non plus. Enfin, ils jouent pas la carte du tout technologique comme les autres non plus.
Mais ils ont besoin d'une innovation majeure. Hein, de toute façon, on les attend, on attend
la surprise du chef.
Si on est déçu, le soufflet peut vite se dégonfler, je sais pas.
Retomber.
Et alors, Julo, il y a une autre information, c'est potentiellement ces manettes qui intégreraient donc un écran seraient aussi munies d'une caméra.
Tout à fait, une caméra, donc pour certainement pour reproduire ces principes de qu'on appelle ça de réalité augmentée, comme on voit déjà sur 3DS, comme on verra sur NGP ou PS Vita bientôt aussi. C'est pas bête du tout, je trouve. Parce que c'est une là pour le coup, c'est pas une technologie de pointe. Enfin, je les vois
mal. Surtout vu les caméras qu'ils ont achetées en stock pour tous les
mais justement, c'est des
300 000 pixels.
Des petites caméras toutes pourries, ouais, certainement. Mais qui permettront de. Ça, c'est très Nintendo, je trouve. Voilà, c'est plus dans la pensée latérale des technologies des EVET.
Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que du coup, finalement, cette manette, elle ressemble de plus en plus à une 3DS ?
Oui. Complètement, c'est ce que je me disais au bout d'un moment, c'est-à-dire que. Mais d'ailleurs, c'est peut-être une possibilité. C'est-à-dire que.
Compatibilité 3DS.
Voilà, tu viens avec ta 3DS, exactement. Ça te permet de jouer, puisque c'est exactement les mêmes fonctions, tactile, écran et caméra.
Tu veux dire comme quand tu branchais ta Game Boy Advance sur ta GameCube.
C'est ça. Oui, sauf que là,
oui, sauf que c'est natif.
Il
n'y
a pas de câble. Et justement, et ça, c'est un autre truc de Nintendo, c'est que souvent, ils ressortent du placard des trucs qu'ils ont utilisés,
c'est
mais
pour
pas très bien. Et donc, ça, c'est très largement possible aussi. Après, on se demande. On y croit, oui, mais alors après, ça va poser.
Oui, c'est le cas de le dire.
On n'a pas assez de. Enfin, j'arrive pas trop à imaginer le truc. Déjà, bon, il y a le problème d'autonomie. Une 3DS a une autonomie de merde, donc une manette qui utiliserait toutes les mêmes choses, ce serait pareil.
Après, ça peut être comme sur PS3, c'est-à-dire que tu peux peut-être la rebrancher pour la changer facilement.
Oui,
il y aura peut-être des petits socles avec. Il y a plein de choses à imaginer pour que ce soit pas trop pénalisant.
Et puis surtout pour les gens qui ont pas de 3DS et qui voudraient acheter cette console, il faut qu'ils puissent acheter une manette en plus. Et ça paraît complètement dingue d'avoir des manettes qui coûtent $200. Enfin, tu vois, c'est.
Oui.
Moi j'adore cette excitation pré-E3 comme ça où les rumeurs se suivent et puis alors on a du mal à définir exactement ce que ça va être, donc il reste la surprise. Et puis moi je suis persuadé que Nintendo garde de toute façon une vraie bastos pour l'E3.
J'ai envie de vous poser une question quand même. Là, ce qui a l'air d'émerger globalement sur la prochaine Nintendo, c'est un retour à une manette plus traditionnelle, qui probablement contient énormément de technologies,
des
choses...
Avec des sticks analogiques,
des sticks analogiques, bon, etc. Très bien. Mais du coup, qui finalement ne va... Une manette, on peut pas du tout faire la même chose qu'avec une Wiimote. Une Wiimote, c'est une petite télécommande qu'on prend, qui peut servir à faire les mouvements du tennis, à secouer dans tous les sens. On n'imagine pas la même chose avec une vraie manette.
Écoute,
alors, est-ce que vous imaginez qu'ils vont... Il va avoir une manette plus traditionnelle pour ne pas se couper des jeux plus gamers, à la fois pour les éditeurs et à la fois pour les joueurs, et en même temps une autre manette, enfin une autre plutôt Wiimote-like. Ou
en
est-ce
fait,
que
ce sera pas une Wiimote-like, ce sera les Wiimotes. Les Wiimote vont être compatibles avec ça.
Alors voilà, le plus simple c'est ça, effectivement.
C'est sûr, ça va être ça.
Ouais, surtout que c'est du wireless de base, pas très compliqué. Il y a cette possibilité-là. Oui, sinon il y a aussi l'autre possibilité de pouvoir changer très facilement la forme de la manette. Peut-être qu'elle sera en deux parties, une qui se clipse avec ce dont on a besoin pour l'avoir en main proprement. Moi je pense à tous les trucs en plastoc à deux balles qu'ils avaient fait, genre les volants pour Mario, etc. Ils peuvent très bien aussi éventuellement
faire une coque manette, quoi.
Voilà, faire une coque manette pour quelque chose qui soit utilisable.
Mais si t'as un écran, forcément quand même le truc ne doit pas tenir dans la main.
Les rumeurs parlent d'un écran de 6 pouces.
C'est pas petit, hein.
6 pouces, c'est pas petit.
C'est plus gros qu'une 3DS.
Ouais. Donc c'est quand même assez large, effectivement. Mais je sais pas, peut-être que c'est juste deux éléments qui se branchent l'un à l'autre. Regardez aussi le Nunchuk et la Wiimote, sont deux éléments bien séparés mais qui se rebranchent. Peut-être que c'est un truc en deux parties, je sais pas. C'est une possibilité. Mais le plus simple, c'est effectivement de garder les Wiimote telles quelles. Et puis voilà,
parce que de toute façon, elles seront compatibles parce que elles devraient être rétrocompatibles.
Normalement.
Mais ça veut dire que globalement, quand même, tu n'améliores pas la qualité de reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Wiimote, même avec le Wiimotion Plus, est quand même inférieure.
Avec le mouvement. Ils en ont peut-être fini avec le mouvement, justement.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de développeurs qui disent que c'est excluant. Parce que ça veut dire que tu fais des développements spécifiques, que tu peux pas. Que tu as des gameplays qui sont quand même finalement plus limité que ce que tu peux faire avec une manette.
Après, on s'interroge quand même vachement sur la direction que veut prendre Nintendo. Parce
mais c'est
que
ça le plus important.
Si tire un trait là-dessus, il se coupe d'une partie du public qui a donné le succès à la Wii.
Mais peut-être avec autre chose.
Et
justement.
En même temps, justement, le nom de la console, c'est un truc qui m'intéresse vachement. Parce que est-ce qu'ils vont garder du Wii dedans, quelque chose qui fait penser à la Wii Est-ce qu'ils vont.
Ça s'appellera la Wi-Fi
Non, mais est-ce qu'ils vont trouver un truc, tu vois, qui va faire que dans la tronche des gens, ça va être. C'est pas la nouvelle Nintendo, c'est la nouvelle Wii. Tu vois
Mais ça, pour moi, c'est juste une question de marketing. S'ils sont suffisamment malins pour avoir une communication qui leur permette de faire le pont entre les nouveaux entrants, parce que moi, je suis persuadé qu'ils veulent quand même refaire un coup de séduction sur les joueurs traditionnels. Parce que même si c'est aujourd'hui pas grand chose en termes de marché global, en termes d'image, ils en ont souffert. Ils nous l'ont déjà montré au cours de précédentes conférences. Ils essayaient de les reséduire, de sortir du titre gamer, de dire regardez, on pense toujours à vous. Donc je pense qu'ils vont jouer cette carte-là avec cette machine-là aussi. Et qu'à la fois, ils seraient évidemment débiles de pas. D'autant de conserver tout le reste, quoi.
Ils vont bénéficier pendant au moins 2 ans, puisqu'ils seront à jour, voire même un peu plus puissants que les consoles HD actuelles à leur sortie, de toute la gamme des derniers jeux de cette génération, les Call of Duty, etc., qui étaient inimaginables, en tout cas de la même qualité sur Wii. Et ben là, on va les retrouver directement, normalement.
Mais du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression de. Enfin, là, quand on pense à la nouvelle console de Nintendo. Avec tout ce qu'on dit, etc., on a l'impression que c'est un gigantesque fourre-tout quand même.
Mm. Oui. Et c'est parce qu'on sait pas trop justement dans quelle direction
ils
veulent aller.
Voilà. À mon avis, Nintendo, ils vont quand même choisir une direction claire. Ça me paraît très étonnant que ça devienne un fourre-tout et que, tu vois, ça tombe dans le. Voilà, dans le fourre-tout destiné à séduire tout le monde, tu vois. Ça me paraît bizarre, que ça soit pas plus tranché.
Ouais, c'est un peu ce qu'ils ont, en termes de communication, justement, ils sont un peu dans le fourre-tout avec la 3DS, qui mélange à la fois des pubs avec Nolwenn et je sais plus qui, et Nagui, qui font « Oh, c'est mignon, c'est débile !» Et puis des jeux comme les Street, etc. Et au final, les pubs sont toutes à peu près pathétiques, les gamers doivent pas s'y reconnaître terriblement, et le grand public... n'a pas l'air d'être séduit pour l'instant, et du coup c'est, la console a du mal à assurer un bon démarrage pour l'instant.
Ouais, je sais pas si c'est dû à la campagne de pub qu'à la console en elle-même.
Il y a aussi un truc qu'on envisage peut-être pas assez, c'est qu'ils auront le droit de se planter aussi, hein.
Oui, oui.
Ça se trouve voilà.
Tu sais, ça fait maintenant un an, deux ans qu'on se dit putain, on est vraiment impatient de voir ce que Nintendo va faire, parce que t'aurais décidé quelle stratégie choisir. Tu serais le boss de Nintendo, là, tu serais bien emmerdé quand même. Enfin, je sais pas, moi je. C'est peut-être pour ça qu'ils partent un peu dans toutes les directions ou pas. Hein. Je veux dire, moi, à mon avis, on va être surpris, mais.
Enfin, ça va être
ça, c'est très intéressant.
Ça va être passionnant.
Il suffit qu'ils aient trouvé un truc spécifique.
C'est le cas, hein.
Qui séduise à la fois les joueurs et le grand public, et qui parle aussi bien aux uns qu'aux autres pour que ça fonctionne. Hein.
En tout cas, ils vont vampiriser le 3, encore une fois, comme l'année dernière.
C'est le style de Xiao.
C'est sûr que même s'ils se plantent, tout le monde va parler que de ça.
Exactement.
À suivre, en tout cas, les conférences, toutes les conférences, hein, Nintendo, Sony, Microsoft, mais aussi Ubisoft, Konami, tout ça, vous allez pouvoir...
les suivre en
Electronic
direct.
Arts, vous allez pouvoir les suivre en direct sur gameblog.fr. On aura un service à la fois en France et à Los Angeles.
C'est la classe. On aura un service à la fois en France et à Los Angeles.
Les gens seront mobiles.
On a un service à Tokyo, ça ne sert à rien, mais
il sera opérationnel. Non, mais effectivement, toutes les personnes qui seront à Paris seront sur le coup, et celles de Los Angeles, pareil, pour vous le faire vivre à la fois en vidéo et à l'écrit. Vous serez sûr comme ça de ne rien manquer de ce temps fort qui s'annonce comme l'un des E3 les plus incroyables de ces.
On dit ça chaque année, mais il y a une montée en puissance chaque année.
Là, il y a du hardware, il y a du software. C'est...
Mais même à tous les niveaux, hein, franchement,
on entend ça. Mimique. C'est pas possible. Là,
mais non, mais ça fait pas 15 ans.
Ça va être énorme. Et encore, non.
Mais c'était pas énorme,
super
les
bien comme d'hab, ça va être super bien.
Bon bah alors, depuis 2007, franchement, on est loin de se faire chier.
Attention, mais c'est juste après le creux aussi. C'était une espèce de creux en 2005-2006, voilà. Enfin bon, globalement, c'est toujours le 3. Il y a toujours des trucs faramineux.
Mais là, t'as quand même deux hardware qui vont être montrés vraiment, qu'on va pouvoir toucher. T'as des jeux quand même, a priori, plutôt aboutis.
Par contre, je pense qu'il n'y aura pas énormément de nouveaux jeux. À mon avis, qu'on n'aura jamais
entendu parler, c'est possible.
C'est comme la qualité globale des jeux aujourd'hui, tu vois, t'as plein de bons jeux, puis en fait, finalement, aujourd'hui, on cherche les super bons jeux, alors qu'avant, on cherchait les bons jeux et t'avais une moyenne de jeux. Enfin, c'est pareil.
Oui, c'est vrai.
Bon, enfin, nous, on est plutôt contents de partir là-bas quand même.
Moi, je suis deg de pas y aller, je voudrais que tout le monde le sache.
Voilà.
Oh, il va être pourri votre 3. Moi, je reste en France.
Tu vas être bien à Paris avec nous.
Mais tu pourras le suivre sur gameblog.fr, Mimique, tu verras, ce sera super.
Tu vas même le faire suivre aux gens.
Allez, on passe à d'autres actualités. Vous le savez, le PSN est de retour. Ça y est, en tout cas, le jeu en ligne. Puisque concernant le PS Store, à date où nous enregistrons, nous sommes le 30.
Le 30, ouais.
C'est ça, le 30. Eh bien, le store du PlayStation Network n'est toujours pas de retour. Et du coup, la fameuse offre Welcome Back, avec plein de jeux que certains trouvent géniaux et d'autres trouvent un peu moins intéressants.
En tout cas, tout le monde les trouve assez vieux quand même.
Quand même, ouais. Enfin, pas tous. Il y en a certains. Dead Nation, par exemple, qui est vraiment cool, hein, mais bon.
C'est pas des mauvais jeux, en tout cas.
C'est pas des mauvais jeux, ça c'est certain. Bon, néanmoins, cette offre n'est toujours pas présente. Et effectivement, on attend avec impatience. Ils avaient dit avant la fin du mois.
Donc c'est aujourd'hui ou demain.
C'est ça.
Et donc, à l'heure où vous entendrez ce podcast, si c'est pas de retour, ils ont dit, ils ont menti.
Donc voilà, en tout cas, est-ce que vous trouvez aujourd'hui, maintenant que le PlayStation Network, le jeu en ligne en tout cas, est de retour, que cette crise qu'a connue le PSN portera vraiment des conséquences fâcheuses à l'image, en tout cas, de Sony, ou finalement, là, on est déjà presque passé à autre chose et qu'on l'a, entre guillemets, déjà presque oublié.
Moi, je pense qu'on passera à autre chose.
Oui, moi aussi. On est dans un monde où l'information déboule à toute
une
vitesse, repart aussi vite.
C'est la théorie des buildings dont on parlait.
Moi, franchement, aujourd'hui, tout le monde parle de DSK, quoi.
La théorie des buildings.
Peut-être à l'heure du podcast, on parlera
de Crash. C'est comme le Uncanny Valley ou...
Non. non, ça n'a rien à voir.
Il y a Mimic qui...
Moi, je suis pas du tout d'accord, en fait, quand tu fais ton changement de mot de passe et que après, tu vas pouvoir remettre ta carte bancaire ou pas sur le PSN, bah, dans les conditions, vu que c'est très brouillon, finalement, pour le grand public, bah, je pense qu'ils remettront pas leur carte bancaire, en tout cas, en grande majorité. Donc, si tu n'en mets pas ta carte bancaire, enfin...
Pour l'instant, apparemment, il y a une petite dizaine de pourcents des gens qui n'auraient pas revalidé leur compte. Mais après, il y a peut-être beaucoup de gens aussi qui ne se sont pas reconnectés encore totalement.
Voilà, et tu ne peux pas tout modifier encore non plus. Donc voilà, mais moi, effectivement, c'est un truc qui me tilt. Et pourtant, je suis dans le milieu et j'ai à peu près compris ce qui s'est passé. Et voilà, enfin, tu vois. Donc le grand public, bah, je ne suis pas sûr qu'on lui dise il y a eu un problème sur ta carte bancaire, maintenant remets-la.
Non, mais peut-être pas tout de suite, mais je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Il suffit qu'il y ait une offre à côté, qu'ils se rendent compte que les autres l'ont fait et que finalement, bah, ils ont pas l'air de si mal se porter que ça pour qu'ils sautent le pas. C'est toujours le problème du confort et de la flemme, je pense que...
Ouais, mais finalement, le truc, c'est que c'est pas clair non plus dans la tête des gens. Ce qui a pu se passer, en fait. On sait qu'il y a eu un problème de sécurité, puis c'est tout. Pour le grand public, c'est ça, quoi. Et ça, c'est
pourtant,
pas
putain,
bon, quoi.
On en a parlé, hein.
Même pour le grand public, je pense qu'il y en a plein qui sont passés au-dessus, parce qu'il y a pas mal de gens aussi, ça arrive quand même, qui ne jouent pas en ligne, qui peut-être qu'ils n'ont même pas remarqué que leur PSN était mort pendant quasiment un mois, quand même. À suivre, mais à titre personnel, je pense que si, et je leur souhaite... il n'y a pas de replongeon, il n'y a pas d'autres crises, il n'y a pas d'autres actes de piratage majeurs.
Attends, il y a déjà eu des trucs.
Ça passera, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les gens ont tendance à oublier assez vite. Et mine de rien, quand même, vu que, et je pense que s'il y avait eu énormément de personnes qui avaient été flouées ou sur lesquelles les cartes bleues avaient été utilisées, etc., on en aurait entendu parler un truc monstrueux. À l'heure d'aujourd'hui, j'adore cette expression de merde, c'est pas le cas.
Donc, t'as raison, ça aurait été bien pire, je suis d'accord. Ouais. Mais bon, le doute subsiste. Et bien là, sûr. Là, on parle quand même de ton argent, tu vois. Donc,
Ouais.
À suivre,
Ça va vraiment leur coûter beaucoup d'argent déjà. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça va pas les déranger.
Aussi. La réputation, c'est terrible.
Du coup, pour regagner un petit peu d'argent, Sony a annoncé en ce mois de mai 2011 les PSP Remaster. Alors, de quoi il s'agit ? Eh bien, en fait, les meilleurs jeux PSP vont bénéficier d'une remasterisation en HD. Pour la PS3, avec aussi prise en compte du DualShock, donc ça veut dire utilisation des doubles sticks, etc., Julo.
Ouais, alors bon, là t'as quasiment tout dit, mais en gros c'est une annonce qui a été faite au Japon assez finalement discrètement sur le plan mondial, avec en tête de proue.
Oui, c'était avec la méga crise du PSN et tout, genre bon les gars, on a un truc annoncé,
ouais,
ça peut peut-être faire
ça,
quelque
ouais.
chose.
Et surtout, il l'a annoncé juste, c'est plus ou moins Capcom en fait qui l'a annoncé à travers le portage de Monster Hunter Third. Voilà, Portable Third, qui est évidemment un titre extrêmement important au Japon. La série des Monster Hunter, on le sait, c'est la série qui a complètement propulsé la PSP là-bas. Et donc, un portage sur PS3 avec. Tu précisais le stick analogique droit, je pense que c'est quand même très très important parce que c'est vrai que c'est très chiant dans ces jeux-là. Ça sera le même cas avec Peace Walker, hein, vraiment un stick droit dans Peace Walker, ça sera pas trop.
Non.
Des graphismes HD aussi, du jeu en ligne facile non plus, donc tout ça,
c'est
ça
cool.
va être très bien. Et ça devrait être la tête de proue, là plutôt pour les marchés occidentaux, et donc on imagine dans les annonces qui vont avoir lieu à l'E3.
J'espère juste que ces jeux ne seront pas commercialisés au prix de leurs équivalents PSP, ce sont quand même déjà des jeux qui sont sortis, certains depuis de longs mois. J'espère un geste, genre une vingtaine d'euros, pas plus quoi.
Bah je sais pas, ouais, faut voir la tarification.
Moi, je me demande s'ils pourraient pas le faire en filant en fait la version PSP avec. Genre on te file deux trucs d'un coup, mais c'est quand même le même prix quoi.
Ouais, le bundle, comme on fait
si
DVD,
t'as pas de version Blu-ray. PSP. Si t'as pas de PSP, par exemple, tu t'en fous.
Ouais, ça sert à rien, ouais. Je sais pas, on verra bien.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils préparent aussi la NGP avec ça.
Ouais.
C'est-à-dire que la NGP, elle a un deuxième stick, elle a des graphismes bien supérieurs à la PSP. Donc du coup, ça fera d'une pierre trois coups en fait.
Ouais, parce que ces jeux seront probablement aussi compatibles
probablement,
PS Vita, NGP.
Oui, parce qu'il y a un autre truc, c'est là par contre, tu l'as pas dit, ce qui est génial, c'est que les sauvegardes se transvasent d'une version à l'autre.
D'accord.
C'est-à-dire tu commences, c'est le fameux trip qu'on a tous, jouer à ton jeu chez toi, transvaser la sauvegarde sur ta PSP, continuer dans le métro, rentrer chez toi le soir et continuer encore.
C'est vachement bien.
Voilà, ça c'est bien.
Cool, c'est une bonne annonce en tout cas.
C'est une bonne annonce qui va être bien plus précisée.
Les God of War, par exemple,
ouais,
ils sont
exactement
vraiment pas mauvais
dire.
Sur PSP et qui est vraiment était super beau.
Le dernier, il n'y a pas grand chose à faire pour qu'il soit magnifique sur grand écran.
À mon avis, ils vont annoncer une avalanche de titres sur cette gamme à l'E3.
À suivre. On va passer rapidement sur les autres informations avant de parler des tests du mois avec Elle Noire, par exemple Brink, Outland et d'autres, nos impressions sur Modern Warfare 3, Bioshock Infinite, FIFA 12 et compagnie. Rapidement, de nouveau Wipeout en préparation. Alors apparemment c'est des sites internet qui seraient tombés, achetés par Sony, Wipeout Trinity et Wipeout 2048. Peut-être.
Oui. Notre Trinity, on pense évidemment à une compile. Hein.
Ouais. Donc, ouais. Ça se trouve, c'est dans le cadre des PSP Remasters. Hein,
certainement,
c'est fort possible.
Certainement, ça peut être ça en fait. Et non, par contre, le 2000, je sais pas
48,
combien.
48.
On peut penser à un nouvel épisode, ça serait pas mal.
Ça serait pas mal. Enfin,
une
moi,
préquel
je
du 2097.
Très...
Franchement, le Wipeout de la PS3, c'est quand même une tuerie. Quoi, ouais.
Tous, hein, même
si
les...
vous n'y avez pas joué.
Les PSP, ils sont extraordinaires aussi.
Les PSP sont très bien, mais enfin, je veux dire, le
Fury
Wipeout en HD, vraiment, ça déboîte. Ça déboîte la gueule.
World of Warcraft, qui pour la première fois de son existence, en tout cas dans ce genre de gros chiffres, a perdu 600 000 abonnés. On se rassure.
Tu penses
hein.
qu'il y a des MMO qui arrivent
oui.
à peine à vivre avec ça, et ils sont déjà super ravis d'avoir 600 000 abonnés.
Apparemment, bon, quand même, tout va bien. Hein. Il en reste quand même 11,4 millions d'abonnés, Mimic. Apparemment, c'est le cataclysme qui n'aura pas plus transcendé les gens.
Ils ont fait le tour assez rapidement. Les joueurs ont fait le tour assez rapidement. Ils sont allés tout de suite au haut niveau et puis ils ont bouclé les trucs. Et puis les patchs, enfin, les mises à jour tardent un petit peu à arriver, même si on a eu une dernièrement. Mais quoi qu'il en soit, les gens commencent à avoir l'habitude. Enfin, le jeu a 6 ans.
Voilà,
et que du coup finalement les mecs sont organisés et puis ils arrivent à... en fait c'est peut-être t'as les grosses guildes qui eux genre sans exagérer les 3-4 premiers jours ils ont déjà quasiment tout terminé le nouveau contenu et puis après t'as les techniques qui se déversent sur le net puis hop t'as les guildes suivantes qui arrivent et qui sont un petit peu moins bonnes mais qui connaissent les techniques grâce aux guildes de vraiment de haut niveau puis voilà ça va très vite aujourd'hui. Donc, effectivement il est temps que qu'ils accélèrent les patchs, c'est ce qu'ils expliquaient
c'est leur stratégie, c'est leur réponse
Du contenu,
puisqu'ils vont trop vite on va en faire plus et plus vite.
Voilà.
D'accord.
Je suis allé voir il n'y a pas longtemps, ils sont très organisés, ils sont prêts pour ça.
Bon.
On va reparler tout à l'heure de ta petite visite à Irvine.
Cool. Autre information ce mois-ci, l'officialisation du nouveau Hitman. Hitman Absolution.
Cinquième volet.
On en saura plus à l'E3.
Des aventures de l'agent 47, ouais.
Ouais, parce qu'ils n'ont rien dit de spécial finalement.
Non.
Quelques images.
Ouais. Quelques rumeurs qui circulent disent que ça se présente très très bien.
Franchement, le dernier Hitman était génial. Vraiment génial, ces mecs là sont super doués et c'est ce qu'ils ont fait de mieux quoi finalement.
Je
suis hyper impatient de le tester.
Mimique, ils ont fait ça avec un chauve quand même, ça c'est pas mal, ça c'est du talent.
T'aimes les chauves toi hein?
Bah non, pas longtemps.
C'est un espoir pour tout le monde.
Bah pour moi oui.
Autre information là pas très rigolote, la fermeture de deux studios français, Punchers Impact et Zalag, qui malheureusement n'ont pas réussi à transformer l'essai hein, puisque ça a été finalement assez court. Ça s'est joué en quelques mois.
Bah alors du côté de Punchers, je crois que ça dépend surtout de la politique vue du dessus hein, de
Mindscape
pardon. Du côté de Zalag plus
les jeux n'ont pas quand même
les jeux n'ont pas cartonné
à s'imposer soyons clairs aussi
mais apparemment il y avait des décisions
tout, hein. Ils ont été lancés trop tôt machin
ça a été mal lancé et c'est probablement aussi Mindscape qui a un peu de responsabilité là-dedans hein. S'ils ont forcé un peu
c'est toujours très compliqué
à dire on n'est pas dans les
c'est la robotique leur cam à Mindscape
c'est le Nasdaq et compagnie la suite
non mais c'est très soudain quand même ça va c'est
à la fois c'est toujours ce que je dis quand
les
un studio
vite,
qui travaille quand même avec des équipes ils étaient pas 10 hein, ils étaient quand même assez nombreux sur des jeux qui n'ont pas du tout marché forcément aujourd'hui
et parce qu'ils ont été lancés trop tôt
c'est sans pitié
effectivement.
C'est sans pitié.
Certainement. Voilà.
A priori, néanmoins, Lucha Fury, qui devrait donc être le dernier jeu de Puncher Impact, devrait sortir, mais à la fois, il est toujours reporté. Il bloque certaines choses. Pour l'instant, on n'en sait malheureusement pas beaucoup plus.
Ça serait que sur XBLA, du coup, je crois.
Ouais,
pour Lucha Fury,
A priori, oui, peut-être
que c'est exclusivement XBLA, du coup.
À suivre en tout cas
puis Zalag,
pour Zalag c'est un peu différent
c'est un peu une autre histoire en tous les cas c'est leur point de vue aussi sur la question mais je pense qu'ils ont vraiment raison c'est d'avoir parié sur le WiiWare en fait qui est une plateforme qui a pas décollé
complètement
quoi,
décédé
quoi.
Qui avait bien marché au début apparemment il y avait des signes encourageants
puis ça s'est très vite effondré et même s'ils ont fait de bonnes ventes avec leurs titres sur WiiWare des bonnes ventes sur WiiWare ne suffisent pas à ça ils avaient sorti quand même un autre titre sur PSN qui était
un mini un PSP Unis
qui a bien marché aussi
mais qui a pas suffi
le nom m'échappe
God versus Human
non ça c'était sur WiiWare
God versus Human ils ont même sorti une version Mac et PC au final en téléchargement je crois
ils se sont démenés mais
ce qui est sûr c'est qu'ils ont parié dès le départ sur le WiiWare et que ça leur a porté préjudice quoi. Très clair
mais c'est quand même la preuve que voilà aujourd'hui les choix les stratégies sont très importantes et que ces sociétés là à chaque fois on dit toujours oui, non, mais c'est bon, ils ont de l'argent, c'est bon, machin. Non, non, si les gens n'achètent pas ou si les gens ne soutiennent pas, quelles que soient les sociétés, à part si vous êtes déjà une multinationale absolument gigantesque
et encore,
peuvent fermer quasiment, entre guillemets, du jour au lendemain, comme ça.
Et t'as pas, t'as pas trop le droit de te rater, quoi.
Non,
parce que...
non.
Si tu comptes effectivement sur les gens pour te soutenir alors que t'as sorti ton jeu trop tôt pour X raisons, machin, etc., ça va pas marcher non plus. Donc bon.
Bon, en tout cas, on leur envoie des ondes positives. Mmh. On espère qu'ils pourront rebondir d'une manière ou d'une autre. Parce que mine de rien, quand même, à l'intérieur, il y a du talent qui n'a pas réussi à faire montre de
rencontrer son public,
Ouais. Mais peut-être une prochaine fois, c'est ce qu'on peut leur souhaiter. On parle aussi du bid du Xperia Play, en tout cas, attention, je précise, des jeux PlayStation première génération qui sont ressortis sur le Xperia Play, puisque en gros, de Jumping Flash à Cool Borders 2, Medieval, Siphon Filter ou Destruction Derby, ils se sont vendus maximum chacun entre 500 et 1000 exemplaires.
Et encore,
et
là,
1000,
t'es généreux, là.
1000, c'est Destruction Derby. Tous les autres,
oui,
c'est entre 100 et 500. Hein. Jumping Flash, c'est entre 50 et 100. C'est apocalyptique, ouais. Hein, quand même. Hein.
C'est juste dingue.
C'était super, ce jeu, à l'époque, sur PlayStation.
Jumping Flash,
ouais.
Ah ouais, génial.
J'adore.
Ouais, ouais,
et à la fois, j'ai envie de dire, c'est dingue, mais est-ce qu'on les aurait achetés? Moi, par exemple, je m'en fous totalement.
Non, mais depuis le début, on dit que l'Xperia Play...
Et déjà, faut acheter l'Xperia Play. Donc,
voilà.
Bon, c'est ça, surtout. Si je le trouve en brocante, Jumping Flash, oui, je l'achète.
Et à la fois, Minecraft sortira sur Xperia Play.
Oui, oui.
Puis en plus, oui, alors ça, j'ai pas
avant l'iPad, avant l'iPhone.
Oui, cela dit, ils travaillent
Android.
Sur toutes les versions, ils ont peut-être sécurisé.
Mais la première, c'est.
Voilà.
Non, mais c'est de l'Android, c'est... en fait, à la base. Oui. C'est Minecraft mobile.
Oui, mais apparemment, c'est sur Xperia Play.
C'est pour Xperia Play, parce que c'est pour la jouabilité.
Oui, oui. Mais je pense que l'essentiel du code, c'est ça tourne sur Android.
Oui, oui,
ils vont l'adapter parce qu'il y a la manette et tout.
Machin, sans problème, etc.
Bon, en tout cas, ça a l'air pas très très bien embarqué. Et puis alors, j'ai beaucoup aimé la phrase d'un responsable du Xperia Play quand, suite à ces chiffres, où au lieu de dire oui, bah on galère un peu, ou mais vous inquiétez pas, il y a des gros jeux qui arrivent, ou je sais pas quoi, il a dit. Un truc du style, le Xperia Play a redéfini l'industrie, etc.
Ah oui, oui.
Et c'est un bouleversement tellement de telle magnitude que les gens ne sont pas encore prêts. Bah, tu m'étonnes. Pas prêt à se faire carotte, quoi. Enfin, je sais pas, mais bon. À suivre.
Ils sont pas prêts à lâcher leur iPhone.
C'est ça. Ou même des bons Android. Hein. Le nouveau Samsung est vachement bien. Autre information, Alan Wake. Ça y est, un nouvel épisode devrait sortir.
Julo, c'était toi.
Et il s'appellera,
je vous emmène pas dans un tunnel. Vous
Alan
pas.
Wake Night Springs.
Ouais, alors Night Springs, ça vous dit peut-être rien parce que vous avez joué à la version française d'Alan Wake, mais en fait, c'est le nom original de la zone X. La zone X, c'est ces petits shows télé qu'il y a quand tu te balades dans Bright Falls avec Alan Wake. Tu trouves dans des télé et ça ressemble à la Twilight Zone, donc la quatrième dimension, avec des trucs un peu dingues, des histoires un peu fofolles, etc. Et donc a priori ça sera un épisode à part, donc ça coïncide avec ce qu'avait dit je ne me rappelle plus son nom, le
Sam Lake.
Non, c'est le mec du studio.
Akinen.
Ouais, je crois, ouais. C'est ça.
Et c'est un pilote de Formule 1.
Oui, ouais, il pilote des Formule 1, c'est zéro.
Ils sont finlandais tous les deux.
Et donc, ça serait ni un DLC, ni Alan Wake 2. Et effectivement, ça serait peut-être donc un épisode à part dans le monde, grossièrement, d'Alan Wake, mais pas avec Alan Wake.
Et est-ce que vous sentez du Kinect? Parce qu'on sait que sur leur profil d'embauche, il y avait personne avec connaissance de Kinect.
Ouais, il y a eu plusieurs indices, hein, des trucs d'embauche.
Genre, tu lèves la main pour faire ta lampe torche.
Mais il n'y aura peut-être pas de lampe torche. Ça se trouve, ça n'aura rien à voir avec le gameplay d'Alan Wake. Hein. Mm. Ça, c'est, voilà, la
ça sera un party game, en fait, avec les avatars.
Un party game
dans une forêt de Brightfall.
En fait, non, c'est un jeu où tu édites des vidéos de Nightfall. Alors avec ton bras, tu lèves la main pour faire un zoom. Bon, a priori, il devrait être dévoilé à l'E3 parce que
je suis impatient de voir, mais je suis un petit peu déçu que ce soit pas un nouvel Alan Wake.
Ouais. Chez Remedy, ils étaient passablement deg de la fuite qui a eu lieu sur un LinkedIn d'une employée qui a bossé, qui a fait une pige et qui l'avait mis. Ça a été supprimé tout de suite, mais ils ont réagi tout de suite en disant bah oui, c'est vrai, et fait chier. un autre à qui ça fait chier d'ailleurs, c'est Kojima, hein, qui d'ailleurs a annulé sa venue à l'E3, qui ne sera pas à l'E3. Alors est-ce que c'est pour ça ou pas? On ne sait pas, mais a priori il devait venir, il ne viendra pas, après avoir quand même tweeté sur le fait qu'il avait été passablement dégoûté sur un truc sur lequel il a travaillé pendant un an.
Mais les gens disent que c'est pas assez important pour que ce soit le Metal Gear. Moi je pense que c'est ça. Je pense qu'il voulait arriver sur scène et dire et voilà, regardez,
j'ai encore échoué comme une grosse merde, j'ai refait un Metal Gear.
Mais non, parce que à mon avis ils l'ont bien refait. Ouais. Il va avoir de la gueule et tout, et ça aurait été une annance sympa, quoi. Mm. Et puis un an, ça fait un an qu'il travaille dessus, ça me paraît parfaitement probable qu'on mette un an pour porter un jeu, donc voilà, il a dit ça n'a plus de sens et quelques jours après il annonce qu'il vient pas à l'E3, donc
ça se trouve c'est du pipeau. c'est un anti-teasing en fait. Il dit je viens pas à l'E3, vous verrez, il n'y aura rien.
Je pense pas que.
Et en fait.
Avec un carton, le tu vois un mec.
C'est ça.
Ouais, ça serait pas mal ça.
Julo, ça y rêve.
Enfin voilà.
À suivre, à suivre. Allez, on va conclure les actualités avant de parler des tests. Et compagnie, Julo, tu vas garder le micro car c'est quand même l'une des très grosses annonces. Bon, même si elle était très attendue. Le nouvel Assassin's Creed Revelations.
Et là, pour le coup, c'est du teasing aussi. Hein. C'est évidemment pas un trailer qu'on a vu, mais c'était quand même un teaser avec des images du jeu. Avant ça, on a eu quelques fuites de la part de Game Informer qui a une fois de plus eu une exclusivité sur le sujet. Donc, on a appris différentes choses. D'abord que Ezio allait avoir plus de 50 ans dans cette nouvelle aventure.
Waouh!
Voilà, donc c'est un vieux bonhomme, voilà, en pleine possession de ses moyens, puisqu'il il va donc explorer une nouvelle ville, Constantinople, qui sera composée de 4 quartiers. Il va également aller à Cappadoce, donc c'est
Cappadoce.
C'est le nom du kebab à côté de chez moi.
Merci pour l'ambiance, mec.
Bien sûr.
Donc c'est un ancien pays d'Asie mineure situé dans l'actuelle
Turquie. Écoute.
Non, le meilleur autour chez moi, c'est le Marmara. Voilà.
Okay, merci, d'ailleurs.
Petite dédicace.
Marmara. D'accord. Où en suis-je? On sait également que le but du jeu, ça va être de récupérer des sceaux qui permettront en fait à Ezio de comprendre la méta-histoire.
La méta-histoire.
Ouais.
Alors pour ceux qui ne suivraient pas.
Ah, la méta-histoire.
En fait, dans Assassin's Creed,
la grande histoire qui rend
le reste.
Celle de Desmond, en fait, l'histoire de Desmond. Enfin, l'histoire des créateurs.
Il y a des histoires dans l'histoire. Il y a des histoires dans l'histoire.
Les origines de l'homme. Voilà, la religion. Tout
la
ça.
Vérité.
La vérité, voilà, les femmes, le péché originel, tout ça. apparemment, dans un autre communiqué de presse qui avait été envoyé cette fois par Ubisoft, Masyaf, qui était la ville originale dans le tout premier Assassin's Creed, aussi pour être
le village des assassins.
Le village des assassins, tout à fait. Donc Altaïr sera jouable dans des séquences, en fait. Alors c'est assez marrant parce que c'est. Donc en tant que Desmond, tu vis dans ton ancêtre
Ezio,
qui lui-même vit son ancêtre Altaïr. Voilà, c'est ça en fait.
Ça m'a l'air d'un bordel, cette histoire.
Qu'est-ce qu'on sait aussi? Qu'il va y avoir une nouvelle arme qui va être le crochet, voilà, qui va permettre en fait d'utiliser des tyroliennes qui permettront de se déplacer beaucoup plus vite dans les villes.
Ça me rappelle le juste prix.
Ouais, c'est ça.
Il doit récupérer des sauts, c'est Interville.
Voilà, c'est ça. Ouais. qu'est-ce qu'on sait d'autre? Il y a vraiment énormément de trucs. Il va y avoir un système de crafting pour fabriquer 300 types de bombes différentes.
Waouh.
il va y avoir une amélioration de la vision d'aigle. Ils vont changer des trucs dans la maniabilité aussi. Le concept des tours de Borgia qu'il y avait dans Brotherhood va être repris. Cette fois, ce sera les repères d'assassins.
Non, cet homme ne travaille pas pour Ubisoft.
Non, mais c'est super intéressant.
Non, mais justement, Julo.
Et ils vont gonfler le multi aussi à mort.
Ils vont gonfler le multi à mort avec des éléments narratifs.
Ouais. Ne le cachons pas, on sait que tout, enfin pas tout, mais beaucoup de studios d'Ubisoft, ils sont je crois 6 studios entiers à travailler dessus, donc c'est un très gros projet. Néanmoins, c'est vrai que ça fait quand même un peu Assassin's Creed 2.9, non, après le 2.5.
Ok, alors je suis très content que tu parles de ça, parce que moi je trouve ça complètement débile, cette fausse polémique.
Moi aussi.
Dans tous les jeux auxquels vous jouez depuis toujours,
dis-moi aussi.
Vous jouez à un Metal Gear, vous jouez avec Snake à tous les épisodes, quoi. On change pas de personnage principal. Là, il faut comprendre un truc.
T'as pris un exemple qui est un peu bon.
Oui, mais certes. Ouais, bon, mais c'est un Snake.
Non, mais un Sherlock Holmes.
Voilà,
Sherlock Holmes.
Et tu joues toujours avec Sherlock Holmes.
Ouais, enfin, où on lit toujours un Sherlock Holmes.
Voilà.
oui, je suis d'accord avec l'expression mimique de What the fuck par rapport à Sherlock Holmes.
Bah si.
Ça veut dire que c'est
quand
c'est
tu lis un bouquin de Sherlock Holmes,
quand
Sherlock
Holmes
il meurt,
c'est toujours Sherlock Holmes.
Ouais, mais il revient.
Oui, mais le retour de Sherlock Holmes.
Non, pas du tout.
C'est un très bon exemple parce que tu suis les aventures d'un personnage. Mm-hmm. Les aventures sont différentes à chaque fois, c'est des nouveaux opus à chaque fois.
Tu regardes Doctor House, c'est pareil.
C'est
toujours le même scénar, à chaque fois il trouve pas.
Comme entre le premier et le deuxième, on nous a fait changer de personnage, changer d'époque, etc. On s'est dit on va changer à chaque fois. Mais on change de ville, c'est pas du tout le même endroit. Et le gameplay évolue comme dans n'importe quelle suite de jeu normal.
En gros, ce que vous voulez dire en Julo, je suis super d'accord avec vous, c'est y a beaucoup de gamers qui veulent toujours que les développeurs ou les éditeurs réinventent la roue, chamboulent tout, presque des risques énormissimes, etc.
Mais surtout que quand on joue Assassin's Creed, l'histoire est vraiment intéressante et moi je veux savoir où va Ezio, je veux savoir.
Et encore, t'as pas fini Brotherhood encore.
Et encore, j'ai pas fini Brotherhood.
Parce d'autant qu'a priori c'est l'épisode final, ça mais conclut oui.
la trilogie
et après on va passer vraiment à autre chose.
Et là pour le coup il s'appellera Assassin's Creed 3, mais quelque part voilà,
dans Star Wars c'est toujours le même perso.
Mais oui, celui-là s'appellerait Assassin's Creed 4, voilà, ce serait pareil. Enfin je veux dire, on s'en fout quoi, on s'en fout.
Juste des jeux différents.
Le principal, c'est que ça soit bien à chaque fois. L'histoire évolue et on kiffe à chaque fois.
eh bien, on verra si ce
je
sera
calme.
Toujours aussi bien qu'à chaque fois.
Puis si c'est le prix à payer pour avoir de bons jeux à chaque fois de cette ampleur-là aussi, merde, il faut bien qu'ils rentabilisent ce qu'ils font aussi, c'est normal, quoi. Fais chier, merde.
Merde. Putain.
Bon, allez, autre information, dernière information, on a eu la confirmation de la bouche même de Hironobu Sakaguchi, le père des Final Fantasy, de Lost Odyssey et donc de The Last Story, qui est sorti sur Wii au Japon. Il y avait des informations contradictoires, des doutes sur sa sortie en Europe. Il nous a bel et bien confirmé que le jeu sortirait en Europe sur Wii à une date encore non communiquée.
Probablement 2016.
Donc, à suivre. Allez, on va passer au test. Et forcément, le premier test, c'est le jeu événement, globalement quand même, de ce mois de mai 2011. Elle est Noir. Voilà.
Noir.
Je précise que si on prononce comme ça, c'est parce qu'en américain, ça se prononce comme ça, n'est-ce pas, Raon?
En américain, oui.
Ouais, voilà. Donc, elle est Noir. Tu as beaucoup aimé, Raon.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi? Moi, je viendrai en deuxième couteau parce que moi, j'ai un peu moins aimé.
Mais je pense qu'en fait, j'ai en grande partie aimé, peut-être parce que pas pour beaucoup de raisons qui ont fait que toi, t'as pas aimé, peut-être. Mm-hmm. Mais moi, j'ai bien retrouvé le trip de l'enquêteur et en fait, un plaisir qui ressemble, qui s'apparente un peu à ce qu'on avait avec les point and click à une époque, mais parce que c'est quand même globalement. Ça, les mécaniques, hein. Tu vas sur une scène de crime, tu récupères tes indices, tu vas faire tes interrogatoires, etc. etc. Plus la qualité de l'univers et puis de l'interprétation des...
Ah, qui est bluffante, des... ça c'est ouais. certain.
Ça apporte beaucoup à l'immersion et tout. Donc moi j'ai passé vraiment un bon moment, d'autant plus que le scénario global... alors ça pour ça, il faut avoir fini le jeu, mais... Mm-hmm. Il y a en plus des affaires séparées que tu joues un peu comme des niveaux entre guillemets. Il y a un scénario qui ficelle le tout avec les personnages que tu entre Cole Phelps et ses anciens camarades de guerre en fait, qui est vraiment bien ficelé quoi. Donc voilà. Après effectivement, c'est loin d'être parfait, hein, ça c'est certain. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a pas eu finalement la note emblématique de 5 étoiles, parce que ça reste relativement répétitif.
Voilà. Moi c'est un peu.
C'est en même temps un peu le boulot d'enquêteur aussi. C'est toujours un peu la même chose quoi.
Puis quand t'as un travail de narration et d'immersion aussi fort sur un jeu. Forcément t'as besoin aussi d'être orienté quoi. Donc,
Mais alors ça je suis super d'accord et sur toute la partie l'univers, l'ambiance des années 40, c'est prodigieux, les visages, les expressions, le jeu d'acteur, c'est incroyable. Moi j'ai pas ressenti cette histoire de Uncanny Valley là, cette espèce de sensation où justement c'est proche de la réalité mais il y a des petits trucs qui t'en sortent et du coup c'est voilà un peu dérangeant. Moi vraiment je suis rentré dedans totalement, j'ai trouvé qu'on avait vraiment franchi un cap visuel assez incroyable sur les personnages en eux-mêmes à proprement parler. Par contre c'est vrai que j'ai eu plus de mal à rentrer, voilà, les interrogatoires qui finalement sont extraordinairement bloqués et binaires. Ouais, ça veut dire qu'il y a une manière de les résoudre. Et si
parfaitement.
Mais même de les résoudre, parce qu'en fait le reste, ça ne te permet pas d'avoir les indices ou pas les bons. Alors
pas cela,
que...
mais par contre, ça peut t'ouvrir d'autres trucs si tu les as pas justement.
Mais en fait, il y a trois choix. On a la vérité, le doute
et le mensonge.
Ou le mensonge. Oui. Et puis à ça, il faut apporter des preuves, etc.
Et à chaque question que tu poses, il y a une seule bonne réponse entre guillemets. Il y a une seule bonne façon de faire.
Et par contre, t'es pas obligé d'avoir bon pour continuer.
Non.
Pas toujours. Par
sauf
exemple,
le premier.
Sauf le premier interrogatoire que j'ai trouvé, mais terriblement frustrant. Parce que du coup, tu recommences jusqu'à ce que tu aies trouvé la manière dont les développeurs ont décidé qu'il fallait
le
résoudre. Et franchement, le problème, c'est que justement, autant je peux très bien comprendre qu'entre vérité et mensonge, il y a une grosse différence. Mais doute. Qui est le truc médian sur lequel on pourrait jouer avec ça et avec lequel moi je m'attendais justement. Bien sûr, on le voit puisqu'il surjoue, les personnages, on sent s'ils mentent un peu ou pas. Mais justement, moi, il y avait des moments où je me disais,
fois,
j'ai bien compris.
Il y en a certains qui font ce genre, mais en fait, pas
d'accord.
Du tout.
Mais j'ai bien compris que globalement, il a l'air d'être plus ou moins coupable, etc. Mais entre guillemets, je vais presque lui tendre un piège. Je vais faire le doute pour apporter une autre preuve. Et en fait, non, tu peux pas parce que ça enchaîne sur autre chose. Parce qu'ils ont décidé que c'était pas le cas.
T'as tellement bien fantasmé sur cet aspect d'enquête où tu te dis, le but dans un interrogatoire, c'est quand même de manipuler l'autre et donc d'avoir une stratégie. Pour en tirer des informations, même
parce
si tu sais qu'il manque, tu vas faire un jeu.
Il n'y
a pas du tout stratégie en soi. T'as un certain nombre d'éléments qu'il faut vraiment bien étudier avant de choisir.
Ouais,
ça,
avant d'aller interroger
important.
Quelqu'un, effectivement, je regarde
et même
fois
pendant,
les indices. Etc.
Même pendant, il faut vraiment bien regarder. Genre, alors là, il m'a dit ça exactement. Est-ce que ça, il faut vraiment réfléchir, etc. Parce que si on le joue comme un dialogue traditionnel, on est obligé de se planter.
On perd le côté humain, on perd le côté justement traquenard, jeu de stratégie, un peu les échecs, genre tendre un piège.
Mais ça reste une logique de jeu vidéo en fait.
C'est ça qui m'a dérangé. Parce que justement, je m'attendais à quelque chose de plus ample où on était moins sanctionné, mais plus justement à amener à faire son propre dialogue pour arriver à soi-même avoir construit son argumentaire. Et alors, en fait, pas du tout, il faut suivre celui
faire,
qui a été préétabli.
Tu peux le faire, mais malheureusement, comme le jeu utilise des codes de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une petite mélodie à chaque fois qu'on trouve une bonne réponse qui est différente d'une mauvaise réponse.
Attention,
pardon.
À tes souhaits.
Et donc, à chaque fois que tu prends la mauvaise option, tu le sais tout de suite. Donc, t'as l'impression d'être sanctionné tout de suite. Si je pense que s'il n'y avait pas eu ce petit carillon là, et qu'on t'avait juste laissé faire ton interrogatoire, et basta. Ça aurait été beaucoup moins pénalisant. Tu n'aurais pas eu la sensation de te tromper. Ils n'auraient pas dû dire aux joueurs, c'était pas la bonne façon de faire.
Par contre, te dire à la fin, t'en as réussi 3 sur 4, c'est voilà. Bien, par exemple. Mais le carillon, c'est effectivement
le carillon, c'est trop. Alors,
il y a certaines fois où tu rates des trucs, alors juste que t'as douté, alors que bon, si t'avais fait genre mensonge ou vérité, ça passait.
Mais quelque part, dans le côté humain, tu peux pas savoir comment le mec va réagir. Tu le connais pas vraiment, le
ouais,
type.
Ouais, mais les mecs, justement, quand t'as un doute, tu peux pas braquer quelqu'un, tu vois, d'avoir un doute.
Si le mec, il a dit à fond la vérité et que tu le mets en doute, et
justement, oui, mais si le mec ment. En l'occurrence, moi, ce que j'ai vraiment, qui m'ont vraiment fait chier, c'est qu'en fait, il fallait que je le dise, tu mens. Et moi, j'ai juste dit, je doute.
Mais pourquoi tu doutais alors que t'avais la preuve qui mentait? C'est parce que t'as pas regardé la preuve, mec.
Pas totalement, non, mais c'est pas ça. J'avais pas totalement
c'est
la preuve,
faute.
Mais je voulais surtout, justement, ne pas le braquer pour obtenir peut-être plus de choses. Alors qu'en fait, non.
Bah, dès que tu peux le confondre, il faut le
braquer. Il faut savoir que parfois, je trouve que c'est bien de creuser un petit peu les choses.
Il faut savoir qu'il y a des moments aussi où tu dois accuser un mec, mais si t'as pas trouvé la preuve, bah, tu peux pas le faire. Enfin, oui. Tu peux l'accuser, mais t'auras pas la preuve, donc tu ne peux pas réussir en fait.
Et c'est la deuxième partie des choses.
Tant que t'as pas la preuve,
il faut pas. Et c'est la deuxième partie des trucs qui moi m'ont un peu saoulé, c'est que du coup c'est ce côté mécanique d'à chaque fois qu'il y a une énigme, d'aller faire la pêche au truc. Alors à la fois c'est le métier d'enquêteur, hein, je suis bien d'accord. Mais bon, à jouer finalement, ça m'a un peu ennuyé de devoir faire le tour pendant 1000 ans à regarder de manière très mécanique, genre alors là, ok. Ouais. Alors là je crois que j'ai tout. Bon, j'y vais. Ah bah non, il me manquait un truc. Enfin.
Ouais, non, et puis Tiger. Même tu parlais des réponses un peu automatiques, c'est-à-dire t'as trois choix et soit tu tombes sur la bonne ou c'est pas la bonne, et puis bon, bah tant pis pour toi. Moi, quand j'y jouais, je repensais à Mass Effect 2, à Dragon Age 2, où finalement.
Mais c'est pas du tout la même chose.
Oui, mais par moment, tu vois, t'as quand même plus de subtilité, ouais. Tu veux arriver au même but, hein, par moment, dans Dragon Age ou Mass Effect, tu veux faire dire telle chose
mais
à tel mec.
Il faut savoir ce qu'on
veut.
Avoir
tel indice.
Parce que dans Mass Effect, justement, si tu choisis, tu prends des chemins détournés. Mm-hmm. Effectivement, comme tu dis, on t'arrive à quelque chose. Dans L.A. Noire, si tu te plantes, tu te plantes. Fini.
Oui, mais
et
le problème,
jeu change
c'est
en fonction de ça.
Quand tu vas, comme le disait très bien Julien, quand tu doutes, là où par exemple dans Mass Effect, tu doutes et bon, bah, du coup, tu veux un peu gratter, voir si tu peux avoir des éléments, là tout de suite,
t'es bloqué.
Voilà, le mec, en fait, te call, quoi, sort un truc et tu fais, mais non, je doutais, je voulais pas du tout affirmer ça comme ça.
Ah, le prends pas comme ça, mec.
C'est vrai.
Moi, il y a des trucs qui. Quand... Et par moments, je me suis dit, mais je voulais absolument pas dire ça. Ouais. J'étais justement dans le doute et je me dis, bon, bah, j'aurais dû être catégorique et ça serait passé, quoi.
Mais ça, c'est le problème
là,
aussi de pas savoir ce que tu vas dire en fait.
Jeu vidéo.
Parce que d'habitude, tu sais ce que tu vas dire dans les Mass Effect, etc. On te dit ce que tu vas dire. Et là, tu sais pas.
Il y a eu des réactions parfois qui étaient pas du tout celles que je m'attendais à ce qu'il fasse.
Ouais, tu dis, je doute et d'un seul coup, il s'énerve à mort alors que t'avais juste envie, il doute, quoi.
Et puis en plus, souvent, quand t'as doute, mensonge, etc., ça répond pas du tout. C'est pas genre. Lié à une affirmation de la personne. C'est par exemple, je reprends vraiment le tout premier cas, parce que je le trouve symptomatique. Quand il parle de ses problèmes, des problèmes qu'il rencontre le premier témoin, il n'est pas sur une question, il n'est pas sur quelque chose. Et là, il faudrait dire tu mens, alors qu'il a parlé de quelque chose de très factuel sur sa vie à lui.
Mais si c'est faux.
Mais non, mais parce que c'est vrai. Puisque, d'ailleurs, en plus, tu sais que c'est vrai derrière, puisqu'il te le dit. Mais juste, en fait, il ment. Au global, mais pas sur le truc qu'il vient de te dire. Et donc il faut dire mensonge sur un truc global et non pas à ce qu'il vient de te dire. Moi je trouve qu'on suit un peu trop un cahier des charges des développeurs qu'on dit alors voici l'embranchement, voici le truc, et ça m'a fait chier.
Je pense que si il y a un deuxième épisode d'Elle Noire, ce qui est très probable, c'est il faudra peut-être retravailler
plus
un petit peu ça. Parce que moi après en termes d'immersion, d'ambiance, on est absolument dedans, mais moi aussi ça m'a un peu dérangé.
Mais il y a d'autres trucs où justement je pense qu'en fait ils ont été super flippés. Que les gens ne comprennent pas
perdre le joueur
quoi.
Pendant les interrogatoires.
Non, pas de perdre le joueur pendant les interrogatoires, mais vous savez, dans les jeux, on a tellement l'habitude que ça, c'est pour réussir le machin, faut faire ci avec des objectifs précis, et faut réussir telle mission et faire tel truc et tel truc, que ne pas mettre ces repères là. Ceci dit, on peut quand même les retirer dans les options, et je conseille vivement de le faire. Le truc des carillons et tout ça.
Même des vibrations,
ça. Voilà.
C'est ça, c'est pareil. Ça vibre. Ah bah j'appuie. Ça vibre. Ah bah j'appuie.
C'est comme dans Resident Evil quand c'est
abri. Tu sais ce qui a vachement joué dans votre appréciation de tout ça, je crois, très sincèrement, c'est Heavy Rain, en fait. Parce qu'il a été comparé à Heavy Rain, ce jeu. Alors qu'en fait, il n'a pas grand chose à voir. Mais par contre, ce qui était véritablement novateur dans Heavy Rain, c'était ce flow, justement. Tu jouais, quelle que soit la direction que tu prenais, tu disais pas c'est la bonne ou la mauvaise direction, il se passait un truc, t'évoluais dans une histoire et puis t'arrivais au bout d'une manière ou d'une autre, c'était à l'autre bout par rapport à quelqu'un d'autre, etc. Et cette narration là, mine de rien, n'en déplaise à tous les détracteurs qui sont en fait plus des détracteurs de David Cage finalement que du jeu, et ben ça a changé quelque chose, moi je trouve. Et dans ton appréciation de Elle est noire,
c'est trop scolaire, Elle est noire,
voilà, c'est ça, ça devient carré, ça devient beaucoup plus rigide et jeux vidéo que qu'on imaginait.
Je pense que c'est parce que t'as envie de réussir tout, de faire ton interrogatoire parfait.
Voilà. Mais bah, après, quand même, il y a un truc. Je pense qu'on est un petit peu, on fait un petit peu les difficiles. Peut-être à cause de ça justement. Peut-être déçu par ce point particulier, mais qu'en réalité, il faut louer cet effort de la part de Rockstar et de la Team Bondi de nous pondre un jeu quand même qui est vraiment. Quand même, qui sort quand même des sentiers battus, pour plein de raisons.
En termes d'écriture, c'est super.
L'écriture, le soin apporté à tous les petits détails, ce mode noir et blanc, ces débuts de mission qui sont noir et blanc, qui passent à la couleur, toute cette ambiance, les musiques. Et puis, moi, je suis complètement, mais vraiment complètement sur le cul au bout de 2-3 heures de jeu. Ça fait 3 heures que je m'en prends plein la gueule avec ce motion scan là, sur les visages. C'est du jamais vu, c'est génial.
Ça, c'est sûr.
Et quelque part, la question que j'ai envie de te poser, c'est malgré ces petits défauts, est-ce que tu vas continuer à y jouer ? Moi, je pense que oui.
Bah, oui, encore un peu. Mais
il y a un moment, il y a un déclic
qui se fait.
Parce que moi, au départ, c'était
de
pareil.
D'être comme ça, quoi.
La première fois que j'ai joué,
le déclic, c'est le moment où t'acceptes.
À la preview,
que ça soit un peu rigide.
C'est quand en fait, moi, ça m'est venu en refaisant pour la première fois un interrogatoire, parce que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas comme je voulais que ça marche justement. Et en fait, en le refaisant, etc., en réanalysant pourquoi et en faisant les différents embranchements du truc, et ce que le mec me disait suivant les choix, j'ai commencé à capter un certain truc. Et je pense qu'il y a un déclic aussi à avoir par rapport à ça. Mais il y a d'autres détails aussi où tu sens qu'en fait, ils ont pas osé aller aussi fort que ça. Je sais pas si vous avez été suffisamment loin dans le jeu pour passer des coups de fil.
Oui.
Bah ça c'est con. Pourquoi est-ce que on peut pas décrocher tout le temps? C'est seulement quand c'est intéressant et quand on a besoin. Tous ces trucs là, c'est des trucs qui sont cons, qui rendent le jeu linéaire alors qu'ils auraient pu gommer ces trucs là.
Bah écoute, hein, peut-être dans une suite, même si ce sera probablement pas une suite à Elle est noire, mais
un autre jeu de ce genre.
Exactement. On va passer à un autre test important. C'est le test de Brink. Mimic, c'est toi qui l'as fait. C'est un jeu dont on attendait beaucoup et finalement qui s'est avéré un petit peu décevant, en tout cas sur les versions consoles.
Alors ouais, c'est pas un mauvais jeu, attention. C'est un FPS, je dirais, finalement beaucoup plus. On s'attendait à un truc qui allait relancer carrément le team play en fait, parce que c'est du team play, c'est-à-dire de jouer à plusieurs avec chacun un rôle, chaque joueur ayant un rôle, etc. Enfin, en tout cas à plusieurs. Là, pour le coup, c'est finalement assez classique. Il y a un problème aussi de sensation des armes. Moi, c'est le truc qui m'a vachement marqué aussi, c'est qu'aujourd'hui on a l'habitude d'avoir des grosses sensations sur les gros blockbusters, etc. Bon, là c'est du multi, donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai que les sensations sont pas terribles. On a souvent les mêmes décors. Enfin, il y a plein de
choses. Il y a que 8 cartes aussi.
Il y a que 8 cartes. Voilà, que tu fais d'un côté ou de l'autre en fonction de ta faction. Bon voilà. C'est vrai qu'il y a un super design, il y a une super gueule, etc. Mais c'est quand même des décors qui sont récurrents. Donc c'est un jeu qui fonctionne très bien, mais il faut jouer avec des gens qu'on connaît pour faire une vraie team et en profiter vraiment, parce que c'est des lieux qui sont vraiment exigus, contrairement à d'autres FPS où tu peux avoir un peu de place. Là, pour le coup, c'est vraiment très très fermé.
Mais c'est fait exprès
Tout à fait. Mais du coup, t'as d'autant plus besoin de bien connaître tes partenaires en fait pour pouvoir monter des strates. Comment tu dis pour me toucher, c'est ça?
Non, pas du tout. Enfin, je faisais des gestes avec les mains pour comment ça s'appelle, le parcours. Voilà, ça.
Oui, tout à fait, bien sûr. Et tu parles du
Smart System,
voilà, Donc voilà, qui effectivement fonctionne. Alors pas aussi bien que ce que j'aurais pu croire.
Voilà, donc, ça. Voilà, tu te fais parcourir.
Voilà, et donc en fait,
on se fait tous parcourir.
Smart,
par
en gros, on va simplifier, c'est pour traverser des décors plus rapidement, passer sous des structures ou alors au-dessus. Et là, pour le coup, dès que tu tombes sur des arêtes, par exemple, ça pose un problème. Des fois, ton personnage te paume, quoi. Donc il part à droite ou à gauche, et voilà. Donc tu parlais des différences entre les versions
PC et console
apparemment
qui sont majeures.
Voilà, alors effectivement, pour le coup, faut y jouer sur PC. Il y a vraiment pas de doute là-dessus. Même s'ils ont mis des patchs sur Xbox et sur.
Au point que finalement la version PC finalement pourrait peut-être être
suivi.
Non, mais je veux dire presque mieux noté que les versions consoles.
Alors on s'est posé la question. Hein, on a vachement douté. Il y a un patch qui est arrivé sur Xbox, l'un sur PS3 aussi. Donc bon, ça amoindrait un petit peu les différences. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même techniquement, il y a vraiment une différence. Là où c'était problématique pour les versions consoles, c'est qu'en fait au moment où moi j'ai commencé à faire le test, il y avait pas ces patchs et en fait ça ramait, il y avait des gros problèmes de framerate et ça posait des problèmes sur le smart par exemple, donc le système de mouvement, et puis ça c'était assez problématique pour jouer au niveau
corrigé.
Du gameplay. Là a priori c'est moins, il y a encore ces petits problèmes, mais c'est très léger, voilà, mais ça reste effectivement pas très joli comparé à ce qu'on peut avoir sur PC. Sur PC, j'ai pris beaucoup plus de plaisir, c'était beaucoup plus facile à jouer, et le système de smart fonctionnait beaucoup mieux.
Donc au final, c'est bien, mais pas top.
C'est ça, c'est un bon petit jeu à partager entre potes, et voilà, mais bon, c'est loin d'être la révolution qu'on attendait, clairement pas.
Je fous les pieds dans le plat, j'ai l'impression que t'étais vachement plus enthousiaste quand tu jouais à Mag.
Ah oui,
PS3.
Non, mais ça c'est autre chose. Ça, Mag, ah bah, c'est différent,
c'est comparable.
C'est à la grande échelle. Attends. Mag, c'est 32 contre.
Oh là là, je pense que tu vas te faire assassiner par la communauté PC. Hein.
Alors voilà, tu viens
de.
Tout à fait.
C'était bien, Mag.
Ouais, c'était super. Moi j'ai kiffé. Mais ça avait rien à voir, effectivement, c'était pas le même jeu.
Alors justement, puisqu'on parlait de la communauté PC, il y avait un très gros jeu hein, en ce mois de mai 2011, c'était The Witcher 2. Malheureusement, Fumble n'est pas avec nous pour ce podcast.
Mmh. Alors, il joue, hein. Hein il joue. Hein.
Ben voilà, il a énormément apprécié. Hein.
Oui, bah, c'est, il le disait même avant, de toute façon, donc ça doit être son Game of the Year, ouais. Easy, je pense. Donc très gros RPG, non linéaire, développé par un studio...
polonais.
Polonais, voilà. CD Projekt
avec des scènes très crues, je crois.
Oui, alors mais ça vient aussi de parce que c'est une adaptation, c'est une adaptation d'un bouquin. Mais oui, effectivement, il y a d'abaise.
Carrément, même pas des séquences d'amour.
Des jeux comme
non,
ça.
Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, c'est zéro concession, c'est de la fantasy adulte mature. Quoi, voilà. Donc il y a des choses violentes, il y a des choses érotiques, il y a plein de trucs. Et c'est un des gros RPG de l'année, ça la va sans dire.
Apparemment, c'est absolument magnifique sur PC.
Visuellement, ça déboîte.
Ça envoie une grosse claque aux jeux console d'aujourd'hui.
Du futur, mais
non, pas forcément du futur, mais faut avoir une machine de jeu.
Tous les PC pour moi sont un peu du futur par rapport à ce que j'ai en fait.
Moi, je joue sur DS et tout ça.
D'ailleurs, ce sera assez intéressant de voir le 3 parce que normalement, CD Projekt devrait dévoiler les versions console.
C'est en rumeur.
Ils ont réussi à faire avec.
Ça sera peut-être annoncé pendant l'une des deux confs. Peut-être une exclue console, peut-être.
Mais apparemment, The Witcher 2 fait partie un peu de ces titres qui ringardisent un peu les consoles HD, enfin ringardisent en tout cas leur mettre un début de belle claque.
Oui, les PCistes,
ils ont repris
le c'est avec voilà, The Witcher 2. Sûr, ouais.
Mais comme d'hab, hein, je veux dire, c'est vieux
oui,
comme
c'est dans
PC,
leur mentalité.
Quoi. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un.
Oh, taïk
ah, là, là. Mais non, mais c'est
vrai. Je fais copain avec mes amis.
Ils ont toujours le chou, hein, ils ont toujours le chou-fleur. Hein.
Oui.
Mais ils ont raison. Attends, ils payent une machine maintenant 600-800€ pour avoir quelque chose de machin. Le jeu, il défonce, quoi. Il défonce sur PC. T'as pas tous tes trucs d'aliasing, etc. Quand tu joues à Brink, c'est beau. Voilà, quoi.
Ça fait quand même deux jeux sur lesquels le PC est bien, quoi. Non, mais il n'y a pas que deux jeux. Mais les deux dont on vient de parler.
Ah oui, oui. Non, mais attention.
Dead Space, Dead Space 2 sur PC, ça défonce aussi.
Oui, oui, déjà toutes les adaptations sont vachement bien.
J'ai très envie d'y jouer à Witcher 2. Et
oui, bah je comprends. Ouais. Il y a ça, et puis il y a beaucoup de jeux PC qui arrivent aussi. Il y a des trucs genre qu'on ne verra jamais sur console. Et qui sont,
avec ton netbook, effectivement, ça va être chaud. Oui, Witcher 2. Déjà, faire marcher Chrome, c'est chaud. Alors, en vrai, tu veux.
Je joue à StarCraft 2, mec.
Ah oui ? Oui, avec aucun détail.
C'est pas grave.
C'est à zéro.
En fil de fer. Pourquoi pas.
Ça permet d'aller plus vite.
Allez, on va parler d'un jeu qui n'a rien à voir, cette fois-ci qui est en dématérialisé, qui donc demande pas une grosse machine. C'est le Xbox Live Arcade. Il devait
Outland,
sortir sur PS3 aussi, sur PSN, mais alors malheureusement le store n'est toujours pas ouvert. Donc
ah, mais il est sorti sur PSN. Hein. Il est quelque part sur
ah,
les
ouais,
serveurs.
Ah ouais, ouais. Mais les joueurs
mais vous
l'attendent
pourrez
toujours.
Pas l'avoir.
Donc c'est Outland effectivement, et moi j'ai pris grand plaisir à tester ce jeu. Une fois de plus, une belle surprise pour un jeu pas cher, dématérialisé, avec un concept assez original, puisqu'il mélange assez harmonieusement à la fois de la plateforme, à la fois du Ikaruga et du Castlevania. Ça veut dire dans un monde visuellement assez chiadé, où le personnage est en noir et blanc et avec des couleurs très, très éclatantes, très éblouissantes, avec des thèmes de la jungle, des thèmes des enfers, etc. Une très belle...
Ikaruga, je ne sais pas s'il y a grand monde qui connaît aussi.
Alors, expliquons. Ikaruga, effectivement, c'est un shooter où, en fait, on pouvait changer de couleur entre blanc et rouge, ou noir.
Blanc et noir.
Alors là, dans Outland, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est bleu et rouge.
Ouais, c'est ça, ouais.
Voilà. Et donc quand on change de couleur, on n'est pas touché par les boulettes, les petites billes de la couleur, en l'occurrence, qu'on
absorbe, porte. En fait.
Et du coup, il faut switcher comme ça, et ça crée des puzzles complètement dingues. Et donc, dans Outland, on se retrouve parfois avec des espèces de geysers, comme ça, de billes multicolores.
Ouais, façon shmup, quoi.
Et puis, alors, on doit sauter dedans, clac, d'une touche de la tranche, on change de couleur. Pendant ce temps, dans la moitié du saut, on rechange de couleur, on tombe sur la plateforme, on saute. La jouabilité est vraiment excellente, très bien rodée. Y a une
ça mélange
sonore,
plateforme et action, en fait.
Ouais, ouais. Et quand je parle de Castlevania, très détaillé.
Un peu la flashback.
Exactement. Il y a du flashback aussi, un petit peu, mais si je parle de Castlevania, c'est parce qu'on a cet esprit un peu grand univers, donc c'est en 2D que ça se joue, hein, et un peu comme le grand château absolument colossal, ouais, avec des pièces.
Tu reviens souvent sur tes pas ou pas?
Tu reviens raisonnablement souvent sur tes pas, mais c'est assez bien foutu parce qu'en fait il y a des raccourcis qui se
d'accord
débloquent, ce genre de choses.
Parce que tu débloques des nouvelles capacités au fur et à mesure.
Alors voilà, dont des capacités de téléporteur aussi à un moment. Donc voilà, c'est bien foutu, c'est pas cher, c'est intéressant, il y a une super ambiance, c'est un gameplay vraiment old school, très bien rodé, les boss sont anthologiques. Vraiment, moi j'ai pris énormément de plaisir à les faire, alors que finalement, j'avais pas du tout pris ce plaisir dans Donkey Kong, que moi, Country, Returns, sur Wii, que je trouve tout
un
aussi
un plaisir lié
school.
À la difficulté.
Voilà, parce que là, dans Donkey Kong Country Returns, je trouvais que la hitbox était pas très bien réglée, malgré tout ce que les gens peuvent en penser, alors que là, c'est extraordinairement bien réglé, et moi, je suis, on en parlait dans un podcast, il y a trois podcasts, je crois, le podcast Hardcore Gamer, Gamers, hein. La fameuse, la zone, là, quand on...
L'Uncanny Valley.
Non. Quand on rentre... Merde, quand on rentre dans la zone, là...
Oui, bah c'est la zone.
C'est la zone, voilà. Eh bien, je suis vraiment rentré sur un ou deux boss dans la zone. C'est-à-dire, j'avais plus de vie. Et puis, je me dis, bon, bah, c'est mort. Et puis là, je commence à m'en sortir, mais vraiment à la sueur de mon front. Et puis, je vois... et puis là, tout d'un coup, le son se déforme. Et là, tu deviens surpuissant. Et... alors que t'as galéré, que ça fait déjà le 6e, 7e, 10e game over, parce que c'est dur hein, sur les boss. Et là, tu le passes. Et là, t'as une véritable jubilation. Parce que c'est extraordinairement bien réglé. C'est très précis à la manette. Et donc, très plaisant. Voilà.
C'est old school ce que tu dis là.
Très bien. Ouais. Bah c'est un charme assez old school. Et ça brasse plein de choses. Et c'est plutôt réussi. Et c'est le créateur de Stardust HD. Oui. Donc, c'est une petite boîte, mais qui avait fait déjà un autre titre vraiment de qualité. Donc, je vous le recommande. Si vous avez un petit peu de et que vous voulez dépenser sur un petit jeu un petit peu original. Voilà. On parle rapidement, alors Mr. Peel aurait fait mieux que nous, forcément, mais d'un autre jeu qu'on retrouve. Alors cette fois, c'est sur le Xbox Live, mais pas arcade, c'est dans la zone indie.
Ouais, c'est ça.
C'est Blocks That Matter.
Le jeu de Swing Swing Submarine.
Exactement.
Malheureusement, je n'ai pas pu y jouer encore.
Très bien.
Mais c'est un jeu de plateforme aussi en 2D. Bon, c'est apparemment plutôt du puzzle que de la véritable plateforme en fait. Donc c'est un jeu de jugeote aussi avant tout. Il faut
on
réfléchir.
On est un petit cube avec un nez en
avec une foreuse, voilà.
Voilà, et on doit enlever des blocs comme ça. Il y a un peu du Mr. Driller.
Il y a un petit peu du Driller mélangé avec un petit peu d'inspiration de Minecraft aussi, ouais. Suivant la façon dont les blocs réagissent quand tu les pètes ou les uns avec les autres, etc. Donc, bon, malheureusement, Mr. P n'est pas là, mais il en aurait bien mieux parlé parce que moi je n'y ai pas joué encore. Mais en tous les cas, pour un jeu indie, c'est vraiment un très chouette jeu, bien foutu.
Que vous pouvez essayer pour pas cher, hein, toute
voilà,
façon.
Voilà, c'est encore des trucs.
Quelques petits euros.
Mais moi, mais plus ça va, et plus vraiment, mais les expériences qui me font vraiment kiffer, tu vois. Ouais. Et les noirs, c'est colossal, etc. Je me suis pris une claque visuelle, machin. Mais finalement, en termes de plaisir, bah, c'est vraiment sur les Limbo, sur les Outland, etc.
Il n'y a pas de rigidité, là. T'es déçu de rien, au contraire, t'es surpris par
bah
ça.
Ouais,
tout ce qu'on t'en
et tu prends le plaisir d'oser aussi, parce que comme c'est pas cher. Et là, il y a pas mal de jeux qui sont en train de sortir sur Xbox Live. Malheureusement, on a vraiment un temps très limité en ce moment, mais on va revenir dessus. Il y a pas mal de personnes qui m'avaient envoyé des MP sur certains titres. Il y a des shooters, il y a des petits jeux comme ça, vraiment on essaye de s'en occuper dès qu'on sort un petit peu de cette espèce de furia de l'E3, mais il y a plein de petits jeux assez originaux et vraiment pas chers.
Sur Steam aussi il y a énormément de trucs qui sortent, il y a du moins bon aussi, vous avez pu aussi vous en apercevoir au niveau des tests dont l'essentiel a été couvert par Fumble d'ailleurs, qui consomme aussi beaucoup sur Steam. Il y a quand même beaucoup de jeux indépendants à éviter, hein, y en a. Ils sont pas tous très réussis, hein, mais bon, y a, en tous les cas ça bouge.
Allez, on va passer rapidement à nos impressions sur des très gros jeux qu'on a pu découvrir pour la première fois ou d'autres les redécouvrir avant l'E3. Et on va commencer par le jeu événement de cette fin d'année. Que vous l'aimiez ou pas, cette série est un véritable phénomène. Avec le dernier épisode, ils ont quand même généré plus $1 milliard de chiffre d'affaires. Il s'agit du retour de Call of Duty avec Modern Warfare 3. Et cette fois-ci, le théâtre de guerre n'est autre que la Troisième Guerre mondiale. Hein.
La planète, ouais, on va être envahi. Je pense que ça va être le Call of Duty où on va le plus voyager. Pourtant, ça a toujours été comme ça. On bouge pas mal de théâtres d'opération.
Alors, on va où ?
Alors, il va y avoir l'Afrique, l'Himalaya, la France, l'Allemagne, Londres, les États-Unis.
Donc, Paris hein, pour la France.
Paris pour la France, ouais, on a pu le voir effectivement dans le trailer, avec des images qui sont assez alléchantes, hein, c'est quand même bien reproduit, etc. Malheureusement, moi j'ai pas vu le niveau parisien, ce qu'on nous a montré c'était...
Oui, parce que toi tu as vu le jeu, t'es parti à Londres pour le découvrir.
Voilà, on nous a montré deux missions, l'une aux États-Unis, donc là c'était carrément à Manhattan, qu'on reconnaît, hein, pour ceux qui ont été aussi pareils que les images parisiennes, avec les Russes qui ont débarqué, parce que c'est évidemment le retour de Makarov,
c'est la suite de l'histoire. C'est la suite directe de Modern Warfare 2, en fait.
Voilà, où le conflit se globalise, donc c'est vraiment la Troisième Guerre mondiale. Et puis donc du côté américain, on se retrouve envahi par les Russes qui sont dans Manhattan. Donc c'est une mission assez classique. C'est vraiment du Call of Duty classique, hein. C'est-à-dire plein ta gueule et voilà quoi.
On sent quand même que le 11 septembre est désormais loin, parce que c'est typiquement un jeu qu'on n'aurait pas pu faire.
C'est possible.
Après 2001.
Effectivement, parce que là, l'état de Manhattan,
rasé, quoi. Enfin, pas rasé, mais...
pas rasé, mais dans un très sale état, avec des carcasses de bagnoles partout, des hélicos qui tirent des roquettes
des
dans tous les sens,
qui partent de sous-marins dans la baie
voilà,
de New York.
Voilà, il y a pas, les rues sont quasiment désertes, il y a pratiquement plus de civils parce que c'est la guerre totale, quoi. Donc,
parce que les consoles ne le permettent pas de mettre des de civils dans la rue.
Exactement. mais donc il y a ça, et puis après on est parti à Londres. Alors il y a un petit aperçu de ce niveau et de cette mission dans le trailer. Tu sais la scène avec le métro qui déraille et qui s'éclate, ça c'est la scène qu'on a pu voir, voilà, qui se finit dans le tube londonien.
Donc classique mais efficace.
Ah bah, ce qu'on a vu, ça a l'air très efficace. Mmh. Maintenant, en termes de nouveautés de gameplay, on a pratiquement rien vu si ce n'est l'utilisation
d'un
fusil.
Ils n'ont pas réinventé le FPS.
Non, mais ils auraient pu. Enfin, je sais pas.
Hors de question que j'y joue.
Mais attends, ils ne le vendront qu'à 15 millions d'exemplaires dans ce cas-là.
On verra bien. Mais il y a un petit truc, un viseur que tu peux passer sur le côté comme ça quand tu appuies sur X pour passer d'une visée vraiment à longue distance et plus au corps à corps. Bon, il y aura probablement d'autres choses. On a vu un peu les images d'une plongée sous-marine, d'une poursuite en Zodiac, des trucs, etc. Donc ça va être bourré de séquences les unes après les autres.
On va nous en foutre plein la gueule, mais voilà. À puissance 1 milliard, quoi.
Il ne faut pas s'attendre en tous les cas à ce que ça sorte des grands canons de ce qu'est Call of.
Et alors Julo et Tiger, vous deux, vous n'êtes pas des fanatiques des Call of Duty.
Absolument
limite, je crois
pas.
Que vous en avez presque pas fait, et là ça vous attire vachement.
Paris, mec.
Mais Paris.
Tirer sur des CRS.
Est-ce qu'on va jouer les CRS?
Tu reconnais les
chiottes? Tu reconnais
les chiottes?
Il y a le canal. On a reconnu le canal Saint-Martin, la basilique.
Saint-Paul?
Non. 19e. Enfin, en haut, là. Il bute. Hein. Personne ne nous connaît pas.
De quoi, Montmartre, la basilique
voilà.
Le Sacré-Cœur.
Sacré-Cœur, voilà.
Ah oui, d'accord.
Ouais, enfin, on le voit de loin.
Et la tour,
ah,
oui. La tour.
La basilique.
La tour, tu sais, en métal, la tour.
Non, non, et puis il y a les passages parisiens aussi, sur le 10e, 9e arrondissement.
Fidèle,
et puis surtout c'est ultra fidèle la scène où tu vois l'hélicoptère qui se pose sur le toit là,
je veux dire pour les Américains c'est normal quoi, ils kiffent depuis des années avoir leur ville détruite et tout machin. Dire, oh là c'est chez moi et là on pourra dire
regarde c'est
là,
ma maison qui est en train de péter.
C'est vrai.
Tu vois que ça marche quand même. Enfin, je veux dire,
bien sûr.
On te met ta maison, on te fait un FPS dedans, t'es content quoi.
Moi, je vais même dire
voir
quelque
Paris,
chose.
Moi, ça me donne envie.
J'ai envie de jeter un pavé dans la mare. Ça veut dire que depuis des mois, j'entends beaucoup de personnes parler de Battlefield 3. Et effectivement, ce qu'on a vu a l'air prodigieux.
Alors, attention, moi, je relativise déjà. Un premier truc, c'est que ce qu'on a vu là pour la présentation de Modern Warfare 3, c'était une version a priori 360. Mm-hmm. C'est-à-dire que techniquement, on n'est pas sur un PC comme toutes les démos de Battlefield 3 qui ont été faites pour l'instant. On n'a encore pas vu les versions console de Battlefield 3.
Et alors, donc ça a l'air prodigieux, et donc beaucoup de gamers disent ça y est, c'est la fin pour Call of Duty.
Donc pouf.
Voilà, Battlefield 3 va lui mettre une baffe, une toutoune, ça va être énorme. Ah, Call of Duty, on en peut plus.
Gros,
on en a marre. Non, mais il y a un vrai ressenti. Hein. C'est-à-dire, tu vois sur les forums, les mecs qui sont là, genre à cracher sur Call of Duty, cette licence de merde, etc. Et là, c'est fini, quoi. C'est has-been, Infinity War, ça a été la merde, blablabla. Bla, bla, bla. Je pense que ce Call of Duty, ça va être un raz-de-marée, mais ahurissant.
Moi, je pense
que n'ai jamais ressenti une attente aussi forte autour d'un Call of Duty de personnes qui n'ont rien à branler de Call of Duty.
J'en suis la preuve vivante.
Que aujourd'hui, parce que juste et imaginez nous à Paris, on est en train de kiffer.
Les Italiens ils font pareil,
machin,
les Allemands
les mecs
font pareil,
ils font pareil, etc. Ça va être un spectacle colossal avec en plus une machine
ils
de guerre marketing.
Ils ont prévu une campagne marketing apparemment qui est bien supérieure à celle de Black Ops.
Je pense que ça va être mais tonitruant. Ouais. Et effectivement, après je parle pas du tout la qualité, la profondeur du gameplay ou la puissance du visuel, mais je pense que commercialement, ce Call of Duty Modern Warfare 3, mais ça va être
C'est
incroyable. Mais
je pense que ce que décrit beaucoup de joueurs sur Modern Warfare 3, c'est l'absence totale d'évolution dans le principe et dans le gameplay même. Là où Battlefield 3 propose des décors complètement indestructibles, ils ont quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent et qui change profondément la manière dont tu approches ce type d'expérience là. Donc je peux comprendre aussi qu'effectivement ils attendent beaucoup de Battlefield 3, d'autant qu'en plus IA ne cache pas ses ambitions là-dessus.
Ah non, mais Battlefield 3 comprend bien. Ça a l'air génial, hein, je l'attends à mort. Mais disons que cette espèce de rage qui se déverse et qui dit genre Call of Duty, bah ça y est, c'est déjà has-been. mais au secours, je crois que vous êtes totalement à côté de la plaque, ceux qui pensent ça.
Tant mieux, s'ils veulent pas le faire, ils le feront pas.
Exactement, ils seront 10. On passe à BioShock Infinite, que tu as pu voir aussi avec Ken Levine.
Là, j'ai pris ma claque. Là.
Ah ouais.
On va le faire simple, j'ai pris ma claque. Quoi. Je pense d'ailleurs que ce sera la, une des grosses claques de l'E3. On verra quand les autres auront le privilège de le voir.
Pas l'E3
avant. Bah oui. Bah oui, mais puisque nous, on l'a déjà vu avant, puisqu'on a vu, c'est ce qui sera montré à l'E3. Donc, déjà, d'une part. Ils changent complètement d'univers, ça se passe dans une ville volante, donc c'est entièrement ouvert en fait et très aérien, très presque printanier d'ailleurs, parce qu'au-dessus des nuages il fait toujours beau, donc c'est toujours soleil éclatant, etc. Et il y a cette relation entre les deux personnages, celui qu'on incarne qui est Booker DeWitt dans des années 1900 uchroniques, et l'autre, le personnage qu'on est venu délivrer sur la ville de Columbia, qui est Elizabeth. Je vais pas refaire toute la démo là à l'oral parce que déjà ça serait long. Je vous renvoie à mes impressions où je la décris. Ça ressemble vraiment à du BioShock en termes de mécanique de jeu. C'est vrai qu'il y a les armes à feu, il y a les pouvoirs, etc. Mais la correspondance avec Elizabeth et le fait qu'on puisse utiliser ses propres capacités, qu'elle soit tout le temps là pour t'aider aussi quand ça pète, genre à te dire attention derrière toi, à vraiment t'ancrer dans le monde, c'est quelque chose que j'avais pas vu avant.
Mais qu'est-ce qui t'a mis ta claque vraiment?
Bah, c'est ça ou c'est... Visuellement c'est sublime. C'est pas tant techniquement que c'est incroyable. Genre par exemple quand les premières images de Battlefield 3, on a tous fait oula, le moteur il défonce. Alors oui, le moteur est de,
mais c'est l'immersion
apparemment. Voilà, défonce parce que c'est le prochain Unreal, le moteur Unreal, donc c'est un très très bon moteur. Mais c'est pas ça, c'est la direction artistique, c'est l'ampleur aussi, parce que il y a pas eu un seul chargement, alors qu'on s'est accroché à ces rails, à tout un système de rails interconnectés à l'intérieur de Columbia.
C'est très tendance hein, avec Assassin's Creed et
les tyroliennes. Ouais. Alors j'ai hâte de voir celle de Assassin's Creed parce que celle d'Infinite, c'est les sensations, tu sautes vraiment dans le vide, tu passes au travers des nuages, tu commences à te casser la figure, t'entends le vent comme ça, c'est vraiment super impressionnant.
Comment
ça va vite
le vent
et puis ce qui est bien aussi, c'est le travail de l'IA, parce que les autres personnages utilisent aussi ces rails là, donc ils peuvent te poursuivre. Ouais, tu peux les croiser comme ça, leur donner des coups de clé, tirer dessus, etc. Enfin, c'est super actif, c'est hyper survolté, le monde est incroyable, et il y a ce côté de mystère aussi qui est typique de ce que produit Irrational Games, où on ne sait pas quelle est la vérité derrière le pouvoir des déchirures de Elizabeth, qui est capable apparemment de manifester d'autres réalités dans Columbia, dont une réalité moderne où tu as une projection de Revenge of the Jedi, qui était le working title de Return of the Jedi au cinéma. Donc tu sais pas où t'es au moment où ça arrive. Enfin, c'est encore très mystérieux, mais
elle a l'air de pouvoir manifester d'autres réalités.
Comment tu l'as perdu là.
Mais écoute, j'espère qu'ils sortiront en vidéo ce que j'ai vu en démo. Vous verrez par vous-même. Mais
c'est ce qu'ils vont montrer à l'E3, ce que t'as vu.
Oui, mais j'espère surtout qu'ils vont le sortir en vidéo pour
T'inquiète,
que tout le monde le voit.
S'ils l'ont fait pour la Gamescom.
Ils l'ont fait vachement longtemps après, malheureusement. J'espère qu'ils iront plus vite cette fois-ci.
Mais
en tous les cas, pour moi, c'est clairement un des jeux de l'E3, alors que j'y ai même pas encore foutu les pieds. Voilà.
Très bien, et eh bien écoute, ça donne envie. Un autre titre qui fera pas sensation à l'E3, bien évidemment, mais par contre qui devrait faire un sacré carton en fin d'année, c'est FIFA 12 Tiger.
Yes.
On a eu la chance tous les deux de le voir. Moi j'ai
de
pu y jouer aussi.
Ouais. Exactement. Moi je l'ai juste vu en détail et toi tu as pu y jouer.
Alors vas-y, dis-nous ce que t'en as pensé toi.
Franchement, après FIFA 11, je pensais que le FIFA 12 serait une repompe du 11, gentiment avec un 12 floqué sur la boîte.
Parce qu'ils avaient globalement gagné.
C'était 5 étoiles sur Gameblog, j'avais bien kiffé. Et puis je pense que là, cette année, je sais même pas si on peut parler d'une bataille avec PES. Quoi. C'est-à-dire que t'as FIFA qui est au sommet et PES qui est ailleurs. Alors je sais pas ce que proposera
dans une autre dimension.
PES. Non mais parce que pour en discuter beaucoup avec des joueurs de simu de foot et même moi hein, le PES 11, j'ai beaucoup joué, il y a des sensations que j'aimais bien et ça sera sûrement le cas du PES 12. Mais après si je dois le conseiller à quelqu'un un jeu de foot en termes d'expérience de jeu, ce FIFA 12 ça a l'air juste incroyable.
Alors pourquoi ?
Avec un nouveau moteur de collision, alors ça c'est la plus grosse
c'est
nouveauté,
surtout ça,
Impact,
Impact Engine,
Engine qui modifie tout quoi, c'est-à-dire que t'as une sensation de réalisme par rapport à ce que tu vois.
Ils ont utilisé en Battlefield 3
joueurs,
d'ailleurs.
Ouais tout à fait, les collisions sont juste supra réalistes, genre un mec qui va se faire taper dans le genou, bah, on va voir qu'il va valdinguer avec sa main
d'une
sur
façon
le genou
particulière, tu vas voir le genou vraiment
exactement
toucher la cuisse de l'autre, le mec passe
roulades
au-dessus et tout.
Donc fini
donc
les
t'as
bugs
des vrais pressings, des vraies interactions entre les les joueurs dès que tu fais une action.
En plus, il y a une espèce d'intelligence des joueurs selon les capacités de ton joueur aussi. Par exemple, si t'as un mec qui vient sur toi en taclant, et ben si t'as un Messi, voilà, il aura une manière de faire un petit saut pour esquiver. Enfin, tout ça, les duels d'épaule.
Et je me permets vraiment de souligner, parce que souvent on voit des super belles vidéos, gros plans zoomés où on voit toutes ces interactions, oui, on dit, ça défonce, etc. Mais en vrai, qu'est-ce que ça apporte? Bah moi, je l'ai vu avec j'y ai joué, hein, avec caméra normale de loin, etc. Mais je vous jure, ça se sent. Ça se sent dans la manière dont le joueur se comporte, dont il va réagir sur les frappes, dont toute la souplesse des animations vont se mêler.
Tout est beaucoup plus fluide.
Et puis il y a les dribbles. Enfin, la manière.
Tu parlais de la physique de la balle aussi.
Ah bah tout, la physique de la balle est vraiment, vraiment meilleure. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours gêné, même jusqu'à FIFA 11, et ce qui était encore peut-être l'une des dernières choses qui me cramponnait un petit peu à PES, c'était cette balle qui flottait, je trouvais un peu encore dans les FIFA.
T'avais pas vraiment la sensation d'impact.
Voilà.
Et
même quand tu voulais faire une frappe directe, instantanée, appuyer, il y avait toujours une petite latence, etc.
Fait, ouais.
Là, ça part tout de suite, c'est rectiligne, la balle elle a du poids.
Et dans la fluidité de l'animation.
Exactement.
C'est-à-dire que le tir ne pop plus, c'est vraiment dans ta course, hop, tu enchaînes le tir selon le placement de la balle par rapport à ton pied. Enfin,
tu dribbles vraiment. Des vrais progrès qui sont en train d'être faits sur l'animation, parce que c'est quand même un des trucs qui était le plus en retard ces temps-ci. Quand on voit aussi le Top Spin 4, là,
j'étais
complètement bluffé par les transitions entre les animations, le blending, c'est ça?
Ouais.
Et donc là, apparemment, c'est ça aussi qui est extrêmement
bien. À la différence que sur FIFA 12, en plus, tu as les graphismes qui suivent, quoi.
Alors, qu'ils suivent. Alors, moi, j'ai été agréablement surpris, parce que d'habitude, FIFA, c'est toujours un peu clinquant, quoi. Les couleurs sont un peu très saturées. L'herbe, elle est verte, comme t'as jamais une herbe verte à part à Tchernobyl. et là, on est revenu à quelque chose de plus réel. Donc, ça veut dire un peu plus, je dirais pas terne, mais moins flashy, et donc plus crédible, plus réaliste. Moi, j'ai pris une baffe comme j'ai jamais pris une baffe dans un jeu de foot, alors que c'était une version bêta, et c'était déjà ultra plaisant à jouer.
Non, ouais, c'est ultra impressionnant. Tu l'as évoqué aussi, cette idée des idées de gameplay nouvelles. En plus, il n'y a pas que la technique des collisions. Parmi les idées de gameplay, il y a une vitesse supplémentaire, c'est-à-dire qu'avant on avait le sprint, le trot comme j'ai mis dans mes impressions, je trouvais pas de mot pour ça, l'espèce de jogging, quoi, quand on la vitesse normale, et une vitesse encore en dessous, en fait, qui permet de jouer un peu à la manière de ce que peut faire le Barça par exemple, avec des tout petits déplacements à la Messi, à la Xavi, qui permet encore d'avoir une identité de jeu encore plus marquée selon les équipes, surtout que l'IA des joueurs est aussi en rapport avec les stars qu'il y a dans ces équipes. Par exemple, si vous prenez c'est Tottenham, hein, je crois, où il y a Crouch.
Peter Crouch,
ouais, je crois.
Je l'ai marqué dans mes impressions.
J'aimerais bien pouvoir vous confirmer tout voilà. Ça moi-même.
Par
mais...
exemple, vu que Crouch est un géant, cet attaquant géant, et ben le jeu de l'IA de votre équipe de Tottenham, ça sera de chercher les centres sur Crouch. Alors que quand vous jouez avec le Barça, vu que c'est que des petits mecs devant, ils vont plus chercher la profondeur pour un Villa, par exemple. Il y a aussi les nouveaux systèmes de défense. C'est-à-dire que avant, par exemple, il y avait toujours le pressing et tout, mais si on pressait un bouton, les deux défenseurs arrivaient un peu de manière
comme
bêta,
des missiles, hein,
voilà, sur le joueur. Alors maintenant, grâce au stick,
ça n'existe plus, tout simplement.
Voilà,
ils l'ont retiré.
Maintenant, grâce au stick, on peut en plus d'une pression sur une touche mettre une sorte de système de double couverture, quoi. C'est-à-dire que le personnage qu'on contrôle ira au pressing du joueur pendant que
un autre restera à distance,
et les coéquipiers ont la notion des autres du bloc équipe, quoi. C'est-à-dire que ils vont pas se précipiter tous les deux sur un joueur, ils se placent en fonction des coéquipiers.
Alors, petite nuance sur ce point-là, moi j'ai joué avec Plume de Jeux Vidéo Magazine, notre ami Plume, qu'on salue, et du coup c'est vrai que c'est un peu perturbant, parce que tu n'as plus cette habitude, tu ne peux plus tout simplement faire un pressing comme avant en appuyant avec les mecs qui viennent, tu dois vraiment le réapprendre. Et dans les parties qu'on a fait, on a dû faire 5 parties, 5 matchs, c'est pas évident encore totalement, on sent qu'il va falloir, et c'est sacré agréable aussi, puisque
oui,
c'est une simulation, vraiment réapprendre, parce que sinon c'est pas évident, hein, parce qu'il faut avec le stick en même temps reculer son joueur, etc. Mais ça permet effectivement d'avoir une palette de possibilités et de s'amuser finalement en défense, ce qui n'était pas le cas avant, quoi.
Tout à fait.
Et vous parliez de Julo. Peter Crouch tout à l'heure aussi. Ce qui est bien, c'est que dans ce FIFA-là, j'ai l'impression, en tout cas, au vu des screenshots, ça donne l'impression qu'ils ont vraiment respecté les gabarits entre
un
les
peu
joueurs.
Plus. Ça, c'est enfin nous, malheureusement, on
c'est
nous a
toujours
imposé
pas du niveau
équipes,
de PES.
Donc on avait Arsenal contre Manchester, je crois. Et les gabarits étaient mieux, mais c'est pas non plus.
Parce que dans PES, c'était génial, ça, quand tu voyais Messi à côté
de la qualité des visages aussi dans
Ibrahimovic.
PES, du haut niveau. Ouais.
En tout cas, voilà, vous aurez compris que FIFA 12 risque encore une fois de faire très mal. Electronic Arts ne s'est pas endormi.
Mais genre
sur
là, vous
ses
êtes
lauriers.
En train de parler des crabes, enfin, genre, c'est fini là. C'est-à-dire à vous entendre quand même.
C'est jamais fini avant que le gong ait sonné. Mais
là, ça va être genre, allez,
on paye les musiciens.
On enfonce le clou, mais genre profond, quoi.
Ça risque d'être
mais
ça.
Mais grave, c'est l'impression.
Sans pour autant que PS soit mauvais, mais FIFA est vraiment en train de partir.
De très loin devant.
C'est Élysée, quoi, tu vois. Donc,
y a un cycle, hein, comme dans tout. On a eu le cycle PES, là, on est en plein dans le cycle FIFA. On verra après si ça tourne.
C'est un peu
ça a duré combien de temps le cycle PES?
Une dizaine d'années.
Ouais, un bon moment.
Bon,
un
petit moment.
Konami, voilà, c'est le temps qu'il vous faut investir.
Ouais. C'est un peu comme le Barça et Lille. Hein. Lille est une bonne équipe, mais face au Barça, je pense qu'il se prendrait une petite toutoune.
Oh, tu peux même dire Manchester. Manchester
non, t'inquiète.
Face au Barça, il n'y a pas photo. Quoi.
Mimic, toi, tu es parti dernièrement aux États-Unis.
Chiche.
Et tu as eu une chance rare parce que peu de personnes rentrent dans le
Saint des Saints.
Tu es allé voir StarCraft 2 Earth of the Swarm.
Chiche.
Okay, mais encore,
je suis,
est-ce que tu serais chiche de nous en parler?
Ok, d'accord. Donc,
déjà, est-ce qu'elle est bonne la cantoche chez Blizzard?
Écoute, on avait des plats qui étaient au nom des ergues en fait, donc hydraulique.
Oh, ça devait être bien dégueu!
Et c'était des superbes brochettes succulentes. Non, c'était très très bien.
Puisque donc Earth of the Swarm, pour ceux qui l'ignorent, c'est le deuxième épisode de StarCraft 2 où on va jouer les ergues.
Exactement, tout à fait. On va jouer Kerrigan et les ergues. Et on a vu deux missions. Alors on ne sait pas exactement où est-ce qu'elles sont situées, apparemment au tout début de la campagne. Et donc on a pu voir les premières nouvelles mécaniques qui seront un petit peu différentes de celles des terrains, puisque la campagne de StarCraft 2, pardon, Wings of Liberty, était basée sur les terrains. On a vu que Kerrigan allait avoir plusieurs sets de skills, donc avec différents pouvoirs en fait, puisqu'elle va avoir un rôle très très important dans les batailles.
Donc on va la jouer vraiment en fait.
Exactement, mais ça reste toujours en RTS hein, bien sûr. Ouais. En fait, si tu veux, pour l'exemple le plus similaire, c'est les héros dans Warcraft 3.
D'accord.
Donc ils vont avoir un rôle très important, déterminant dans les batailles. Il faudra utiliser leur pouvoir au bon moment pour pouvoir prendre l'avantage. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'évolution des créatures ergues qui évolueront en fonction de critères différents que vous allez sélectionner pour déboucher sur des nouvelles formes de zerg qui seront définitives. Mais tout ça, c'est pour la campagne solo, hein, ce dont on parle. Ça influencera
un peu. Ça va jouer le rôle un petit peu des cristaux de technologie qu'on avait dans le premier Liberty.
Oui, c'est ça, tout à fait. Effectivement, c'est un peu ce principe-là, c'est similaire. Mais on n'est pas allé très très loin dans ce truc-là, mais on a pu voir que c'était fonctionnement comme ça. Là, tu as tes zergs qui vont un petit peu plus vite, ils courent 33% fois plus vite, puis tu mélanges une autre capacité, et puis finalement, tu peux les muter en quelque chose. En gros, c'est ça le concept.
D'accord.
Donc voilà. Et puis, si on a vu quelques mécaniques intéressantes en jeu directement avec des décors qui s'effondrent, mais ça reste très très similaire de ce qu'on a vu, tu sais, dans l'émission où tu avais de la lave qui monte, de la lave qui descend, etc. Voilà, donc c'était quand même pas, on est resté 4 heures, on a joué 4 heures, on a fait une émission dans tous les sens, bon. Voilà, on a vu les mécaniques.
Ça a l'air très bien.
Voilà, ça a l'air très bien. Techniquement, ça a l'air assez similaire parce que de toute façon, ils veulent pas aller très très haut parce que.
C'est typique de Blizzard. Voilà,
c'est
typique de Blizzard.
Mais c'est quand même un peu plus fin, hein, quand même.
Ah ouais.
Il y a des petits effets de lumière, etc., qui sont assez impressionnants, surtout sur les Protoss. Donc voilà, en termes scénaristiques, je vous dirai rien du tout.
D'accord.
J'ai pas le droit.
Moi qui suis novice, c'est un jeu à part entière comme StarCraft 2, c'est-à-dire
alors,
de
Tiger.
Ça sera aussi long, ça sera aussi consistant.
Tout à fait, ça sera 29 missions, tout comme StarCraft The Wings of Liberty. Et voilà, apparemment, ça pourra jouer seul, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire en marge.
Sans avoir fait le premier, tu veux dire.
Voilà, mais par contre, ça prend vraiment la suite derrière, c'est scénaristique. Voilà.
Et parce que vu qu'il a fallu 12 ans pour que StarCraft 2, là, de voir nouveau StarCraft 2, je me dis, il est aussi conséquent.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi j'avais compris que un an et demi après, on allait avoir la suite, donc Earth of the Swarm. Si ce que j'ai vu là, c'est là où ils en sont, j'en doute, mais bon, voilà, à mon avis, on a encore un petit peu de temps quand même.
D'accord.
Ça va être plus long que prévu.
À la base, ils devaient sortir en même temps.
Ils ont dit.
Non.
Au tout début, oui, il devait y avoir StarCraft 2 et point, quoi, avec ces trois campagnes, comme le premier, etc.
C'était tellement colossal en termes scénaristiques de possibilités, etc., que du coup, ils ont séparé, ils ont fragmenté en trois.
On
ne
rend pas bien compte.
En fait, il y a plus de. Oui, c'est énorme. C'est-à-dire que le simple épisode des terrains.
C'est colossal.
Par rapport à ce qu'était StarCraft, oui.
Enfin, vas-y.
Mais effectivement, il y a des embranchements, tu choisis certaines directions à un moment, tu choisis d'aller sur telle planète, faire telle mission de telle façon, etc. etc. Donc il y a plusieurs façons de vivre en gros la campagne solo. Donc tu fais pas les 29 missions intégralement la première fois, t'en fais certaines.
Tout à fait, tu dois en faire 23-24. Mais il y a un truc qu'il ne doit pas bien comprendre, si tu veux, s'il n'a pas joué au jeu, c'est que d'habitude tu joues à RTS, tu joues à des petits bonshommes qui se battent, c'est ça que tu vois,
sûr,
toi.
Ouais.
Mais en fait, en marge de ça, en solo, si tu veux, t'as une véritable histoire avec une vraie mise en scène, avec des vraies cinématiques, avec des vrais choix que tu peux faire aussi dedans et qui ont une influence qui change vraiment le déroulement du film, parce que c'est vraiment ça pour moi. Et ça va être la même chose pour Earth of the Swarm, et ce sera pareil pour la suite Legacy of the Void sur les Protoss. Et c'est colossal, je veux dire. Moi je suis en train de la refaire actuellement, la Wings of Liberty, ça prend beaucoup de temps. C'est pas, enfin,
t'as des scènes aussi entre les missions, quoi, où tu te balades un peu dans le vaisseau, c'est pas un un jeu d'aventure en entier, mais tu te balades dans le vaisseau, il y a d'autres petits trucs à trouver, des discussions à déclencher, etc.
Ils vous disent qu'il y a des choix, mais quand vous allez commencer le deuxième, votre sauvegarde sera très importante, alors c'est parce que scénaristiquement, tu ne seras pas au même point que quelqu'un d'autre qui l'a fini.
C'est une question très pertinente, Julo, je suis content que tu l'aies posée, parce que non, il y a un début et une fin seulement. Ouais. Voilà. Mais tu as des embranchements différents à l'intérieur. Ah, je t'ai calmé là.
C'est de la merde, c'est de la merde.
Allez, non, ça a l'air très bien.
On va passer à un autre titre, Dark Souls Tiger, qui est donc la suite d'un des jeux les plus hardcore.
Ouais.
Tu nous resitues un petit peu ?
Bah, depuis qu'il l'a vu, il en parle tous les jours.
Non, mais Dark Souls, il m'a envoûté, les gars.
Alors, qu'est-ce que
vraiment,
c'est ?
Pour
il t'a marabouté.
Mais Mimic, toi, tu as joué à Demon's Souls.
Oui, on peut dire ça, effectivement.
Tu peux
le test
en parler.
Moi, j'ai joué.
Bah, non, lui, ça a été douloureux.
moi, j'ai adoré, hein, mais c'est effectivement, c'est le jeu typiquement hardcore où en fait, c'est surtout hyper punitif, ça qu'il
action
faut retenir.
RPG,
voilà, c'est de l'action RPG
dans des donjons.
Et, dans des donjons, effectivement, c'est assez austère et tout ça, et donc t'as de la customisation, tout ça. Mais c'est surtout que c'est hyper punitif, c'est-à-dire que quand tu foires, tu meurs, tu reviens au début, et puis les ennemis que t'as déjà tués, bah tu les recroises. Bon, y a un système de soul où tu vas récupérer tes âmes que t'as. Bon, on va leur épargner ça, mais c'est extrêmement éprouvant, c'est-à-dire que tu peux jouer une heure et demie, accumuler des armes. Non,
mais c'est pas.
Une fois que tu arrives, c'est gratifiant.
Mais parce qu'en
plus, c'est tout. Moi, c'est ce qui m'a hypnotisé dans Dark Souls, ce qui m'a convaincu.
C'est l'ambiance.
Et puis, vu que c'est super dur, vu que tu sais que tu te prends un coup d'épée,
tu flippes,
l'homme lézard qui est en face de toi, t'es comme ça dans le donjon, tu flippes ta race. Quoi.
C'est le cas dans Demon's Souls aussi, hein, déjà.
Et c'est toute cette immersion, moi, qui me fascine. Aujourd'hui, je rejouais à Zelda récemment, là, je saute dans un puits de lave, bon, voilà, je meurs.
Il y a la
vie,
je
ressuscite. Alors que là,
je saute pas dans le puits de lave.
Ta vie a une réelle importance parce que dans Demon's Souls, tu avances, tu te fais tuer, tu peux récupérer ton corps astral avec tous tes objets et tout, mais si en chemin tu te refais buter, c'est fini, tous tes items que t'as eu, mais tu peux oublier quoi.
Alors,
évidemment c'est extrêmement frustrant, mais il y a une immersion du coup qui découle de tout ça.
Exactement, c'est vrai que ta partie et les actes ont une valeur qu'il n'y a pas dans les autres jeux. Et ça, c'est vrai que
depuis longtemps, on va dire.
Ça.
Depuis longtemps. Parce qu'il y a une époque, quand même. Les Dungeon Master, c'était pareil. Quand tu voyais une momie arriver au début, tu prenais tes jambes à l'encore.
En comparaison par rapport à Dungeon Master, là,
en termes d'ambiance,
voilà, c'est ça.
C'est normal, Dungeon Master, c'est sur Interiesté.
Tu disais que c'était un peu austère le premier épisode. Celui-là, apparemment, vraiment, est ultra immersif.
Austère, c'est pas vraiment le mot.
Il y a des décors qui sont quand même vraiment.
C'est très sombre.
Les premiers étaient vraiment très pauvres.
Là, de toute façon, c'est toujours des donjons. C'est très sombre.
Ils ont changé la structure. Hein.
Fantasy, oui. C'est-à-dire que tu n'as plus ce système de hub que tu avais dans le premier Demon's Souls. Là, visiblement, bon, on ne l'a pas vu hein, parce qu'on a vu qu'un gros donjon, tu aurais un monde ouvert. Donc, alors, je ne sais pas comment ça va se passer si tu te déplaces de donjon en donjon, de ville en ville. Mais le truc aussi qui est fascinant, parce qu'on a été jusqu'au dernier boss qui était un golem de fer hyper impressionnant, c'est le design des monstres qui est absolument fabuleux. Quoi. Ils sont
alors,
tous
ça, c'était
super
déjà le cas
beaux.
Avant. Ouais.
On a eu des espèces d'hommes, des hommes serpents en armure. En fait, tu sais, il y avait leurs espèces de têtes de cobra qui ressortait comme ça. Il y a plein de trucs vraiment éprouvants, tu vois, genre t'arrives dans une salle, tu viens de combattre ces hommes serpents, tu te dis que tu vas être un peu tranquille, tu vois un coffre, tu l'ouvres, c'est un putain de truc avec des mâchoires et tout qui t'attrape, les machins, ils te laissent jamais de répit quoi. Et
ce qui est horrible surtout, c'est qu'en fait, enfin ça va faire bizarre de dire ça, mais il y a un côté photoréaliste en fait.
Oui.
Enfin bon, c'est les monstres à trois têtes et tout ça, mais en fait, tu te dis, oh, j'y croirais presque, tu vois, quand ils sautent dessus. C'est déjà le cas sur Demon's Souls, même si techniquement c'était sûrement très différent. Enfin, c'était très différent de ce que t'as vu toi, je veux dire. Mais déjà, il y avait des monstres qui vraiment, sur les textures, etc.
Ouais,
tu étais là, t'avais presque envie de rappeler du slime à un moment, c'est vachement impressionnant quoi.
Et puis il y a toute une technique pour te battre contre eux. Tu dois par exemple avec ces hommes serpents, alors faut savoir que quand même le type qui nous faisait la démonstration faisait partie
était lui-même un homme serpent.
Non. faisait partie de l'équipe de développement de From Software.
Il est mort 15 fois.
Non mais attends, parce qu'il était pas en mode god ou quoi que ce soit, mais il était déjà avec un perso vraiment très évolué, très équipé et tout. Le mec galérait mais comme un porc, c'est pas possible. Et le mec a fait le jeu quand même, il a bossé dessus. Et donc il y a des techniques, tu sais, genre faut coincer les hommes lézards dans les couloirs pour servir des pièges, parce qu'il y a beaucoup plus de pièges que dans Demon's Souls. Là un peu, tu sais, comme dans Indiana Jones, dans le premier, là il y avait une grosse boule qui tournait dans le donjon, il y avait des fléchettes empoisonnées qui étaient lancées, mais tu peux te servir de ces boules et de ces fléchettes pour
un peu comme dans Dungeon Master.
Comme dans Dungeon Master. Voilà.
C'est prévu pour écraser les monstres derrière
les
portes.
C'est prévu pour octobre, je crois.
Octobre sur
joué sur PS3 et, alors, attends, et attends, pour la première fois
sur 360.
Parce que ce que tu m'as dit, c'est que eux, ils avaient l'intention de le rendre encore plus difficile que le premier.
Oui, tout à fait. En plus,
c'est insupportable. Voilà, c'est les mecs
insupportable carrément, Mimic.
Non, moi, il y a des fois, il y avait très longtemps que j'avais pas acheté ma manette. Ça m'est arrivé une fois. J'ai passé 4 heures et j'ai perdu mes 4 heures. J'ai vraiment fracassé ma manette.
Non, ils tendent à le rendre plus difficile et aussi à apporter beaucoup plus de customisation pour ton personnage. Tu pourras vraiment le personnaliser de gabarit, tout. Voilà, très personnalisé.
Attends. Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose sur le online?
Alors, ils ont rien infiltré sur le online. La seule chose qu'on sait, c'est que l'histoire du PSN, ça les a quand même bien emmerdés. Parce qu'on sait que Demon's Souls, c'est aussi une expérience online. Quand les personnages, les autres joueurs meurent, ils laissent des indices, des trucs comme ça. Dans Dark Souls, il y aura toujours ça. Et visiblement, ça leur a un peu compliqué la vie, ce PSN.
Tu veux dire du genre, ils avaient prévu de vous montrer un truc et en fait, ils n'ont pas pu?
Ça, je pense pas, mais je pense juste que dans leur manière de développer le jeu, parce qu'il faut le tester. Le mode
ils
online,
vont faire un jeu en ligne, mais sans le PSN, en fait.
En tout cas, j'espère qu'il sortira au mois d'octobre parce que j'ai très très envie d'y jouer.
Okay. Bah écoute, on en saura plus bientôt quand les versions preview arriveront à la rédaction et que tu pourras pester jeter ta manette avec plaisir.
Parce que là, tu sais que tu viens de gagner le test le plus difficile de l'année quand même.
C'est possible.
Et voilà.
J'ai pleuré sur Demon's Souls. J'ai pleuré.
Allez, on va conclure ce podcast avec toi, Mimic. Tu vas avoir le mot de la fin sur Shadow of the Damned.
Tout à fait. Alors, c'est le projet avec Mikami, Suda 51 et Yamaoka. Akira. Voilà, c'est ça. Et donc, ces trois-là, ils ont fait du bon boulot. Hein. Alors de prime abord, quand on a commencé à jouer un petit peu ici à la rédaction, tout le monde était un peu frais, puisque Julo, tu l'as vu aussi.
Ah, moi, j'étais très excité comme d'habitude, et Emric a pris la manette et il s'est foutu de ma gueule.
Moi, j'étais
très excité
frigide.
Comme d'habitude avec, les jeux de Suda 51, parce que, enfin, j'adore vraiment ce qui sort de la tronche de ce mec. Et dès les premières secondes, il y a des trucs qui m'ont fait kiffer, tu vois. Et Emric s'est foutu de ma gueule allègrement, parce qu'il pensait que le jeu allait être vraiment complètement naze, etc. Et je suis heureux aujourd'hui qu'il puisse revenir vers nous tous et nous dire à quel point Shadow of the Damned ça va démonter la gueule.
Alors effectivement, le prime abord, ça avait pas l'air d'être ça du tout. Et au final, c'est vraiment vraiment très très bien. Ah ouais. Alors il y a plein de trucs à dire. En gros, il y a l'univers qui est extraordinaire. Bon, ça, c'est complètement décalé.
C'est
l'histoire d'un type qui s'appelle Garcia Fatal Hotspur et qui en fait est un chasseur de démons. C'est un Mexicain, tu vois, avec des tatouages partout. C'est un gars de bande et tout ça.
Il sort tout droit du film de.
Bah, c'est un peu l'ambiance de
From the Steel Down, en fait. C'est
le Twitter.
Ouais, une nuit en enfer.
Une nuit en enfer.
Exactement. Donc c'est ce cliché-là. Il va chercher sa nana en enfer qui a été enlevée par un mec qui s'appelle Fleming, seigneur des démons. Bref, voilà.
D'ailleurs, comment il absorbe sa meuf.
Oui, tout est là. Il
sert de sa meuf.
Il y a beaucoup de références sexuelles, etc.
Oui, il y a du cul partout. Enfin, des références.
Une vulgarité.
du cul.
Outrancière, il ferait passer les mecs de Gears of War pour des rigolos. Enfin, vraiment, il y a des trucs vraiment poussés. C'est très sympa. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a des bonnes idées sur l'histoire en rapport avec la nana. En fait, par exemple, c'est toi qui vas chez ta nana en enfer. Et finalement, il y a des scènes où en fait, c'est elle qui te poursuit parce qu'elle c'est devenue une furie. Et je sais pas si t'imagines le cliché, mais t'as une nana à poil en string qui est en train de te courir derrière pendant que t'as le héros qui parle avec une tête de squelette démon qui est son pote et lui dit putain l'autre fois je me suis engueulé avec ma nana, elle était pas contente, et t'as la meuf qui gueule derrière comme une furibar en string et tout, enfin dans une forêt noire.
Mais c'est génial, c'est surréaliste. Mais ce mec il a l'esprit complètement tordu, mais en même temps
c'est marquant. On l'a pas dit, mais c'est un TPS, donc voilà, ça fonctionne à la Resident Evil 4. On reconnaît la patte Mikami là dedans pas de problème. Alors c'est un peu rigide au niveau du déplacement, mais c'est un peu j'ai réfléchi à deux fois, mais oui
on appuie en 15 boutons.
Voilà, mais c'est beaucoup plus dynamique. D'ailleurs, ça donne du dynamisme à la chose. Il y a de l'esquive, etc. Machin. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est qu'il y a une mécanique sur les ténèbres. Donc, en gros, t'es en enfer.
Ah oui.
Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais t'es à un endroit. T'as les mecs qui arrivent sur toi et t'as autour de toi les ténèbres arrivent. Et à partir du moment où les ténèbres arrivent, en fait, tu ne peux plus les tuer d'une certaine manière. En gros,
il faut
t'enfuir un petit peu.
Il faut t'enfuir un petit peu. Il faut utiliser des tirs de lumière. Voilà, et alors c'est ça qui est vachement marrant. T'as des cris partout, etc. Et puis en fait, tu te retournes. Et t'as une brebis qui gueule.
C'est ça.
Alors que t'es dans une ville médiévale, machin. Ouais, voilà, t'as une brebis qui gueule. Tu te retournes et tu tires dans la brebis, en fait, et ça remet la lumière et ça enlève les ténèbres.
Voilà. Pour allumer la lumière, faut tirer sur des têtes de brebis. Ok. Par exemple, autre exemple, il y a un moment où t'as une porte qui est là et tu sais que tu dois la passer. Et sur la porte, il y a une tête de bébé.
Oui, c'est une tête de bambin.
Et il chiale, c'est horrible. Et il chiale. Et la porte chiale avec une tête de bébé, incrustée dans la porte. Tu dois aller chercher une fraise ailleurs. Ah, et oui. Tu fais la fraise au bébé. Et là, et puis il y a la porte qui s'ouvre, tu vois. C'est que des trucs comme ça. L'univers
est complètement dingue. Il en met plein la gueule.
Et tu récupères ta vie en te bourrant la gueule.
En te bourrant la gueule,
tout à fait. Dans les ténèbres, tu peux se bourrer la gueule.
Tu risques pas d'en mourir.
Et t'as parlé brièvement de son pote, comment il s'appelle ?
Johnson.
Johnson, donc et cette tête de mort, je sais pas si c'est un clin d'œil à Hamlet ou quoi, j'en sais rien. Et c'est aussi son arme, sa moto, etc. C'est-à-dire que
il se transforme en
polymorphe et il arrête pas de discuter avec lui, c'est son buddy quoi, un peu, tu vois. Bon, sauf que j'ai trouvé que l'humour entre les deux était pas génial.
Au début, non, je suis d'accord, ça monte en puissance avec l'autre.
Ah ouais, parce que d'habitude, il est un peu plus.
Ça reste quand même très très grave tout ça, mais bon, c'est très très sympa. Non, honnêtement, ça fait
gentil, je trouve, l'humour au départ.
Bah là, c'est un peu plus
cool.
Ça fait penser à un vieux jeu d'arcade
très hardcore,
dans le fonctionnement. C'est vieux jeu, enfin jeu très arcade, mais avec des mécaniques intéressantes. C'est Histoire de Ténèbres, où vraiment tu utilises dans les boss, face à certains boss, et c'est vraiment intéressant parce qu'il faut utiliser le moment où tu passes dans les ténèbres, où tu reviens dans les ténèbres, etc. C'est vraiment, ça a l'air très bien. Voilà, vraiment ça très bien.
Eh bien écoute Mimic, hein, c'est sur cette bonne note hein, que va s'achever ce podcast.
Putain, tu m'as donné envie d'y jouer là.
Ouais, carrément. Pas du tout, hein. Effectivement, on ira, on va aller jeter un petit coup d'œil.
Parce que le stream de la meuf vaut le détour.
Il sort quand?
Là bientôt, dans 2-3 mois.
Il sort, je sais pas, je crois que c'est à la rentrée, ouais. Ouais. Je sais plus.
Exactement. Ouais, c'est ça, c'est septembre, je crois, il me semble.
Au pire, un petit moteur de recherche Gameblog et un Shadow of the Damned, et vous avez la date. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous pour un podcast exceptionnel, hein, le podcast que nous avons enregistré à la FNAC. Eh bien, ce sera la semaine prochaine, mercredi prochain, puisque, eh bien, tout le reste des équipes sera soit à Paris, soit à Los Angeles, en train de vous faire vivre le 3 comme jamais, avec de la vidéo, des informations live sur les conférences, les news en temps réel, les photos, enfin toutes les coulisses, enfin un déluge, hein, 24h sur 24 d'informations jeux vidéo. Le jeu vidéo va écrire ses prochaines années la semaine prochaine. Nous, on vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast mercredi prochain. Puis le bilan de l'E3, les jeux, les tendances, tout ça, dans 2 semaines. À bientôt, portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao,
ciao. Salut, ciao.